Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Être à l'intérieur plutôt que d'être sur une terrasse avec les voitures qui passent, les pots d'échappement, etc. C'est beaucoup mieux pour nous.
La surprise du chef, l'Île-de-France passe au vert et avec une semaine d'avance, les restos ont pu rouvrir leurs salles. Certains n'étaient pas tout à fait prêts d'ailleurs.
Et autre annonce d'Emmanuel Macron, écoles et collèges redeviennent obligatoires partout dès lundi prochain. On verra que dans les faits, ça s'annonce pour le moins compliqué. Hein.
Ce matin, douche froide, mail de la principale du collège qui dit il n'y aura pas de rentrée pour aucun élève à Sèvres pour les 4e et les 3e.
Voilà, c'est pas gagné. Dans ce journal aussi, les frontières s'ouvrent, ruées sur les tabacs frontaliers. Nous serons en Belgique.
L'entourage d'Edouard Balladur, lourdement condamné dans l'affaire Karachi.
Et les monuments qui retrouvent leurs visiteurs, le Mont-Saint-Michel, mais aussi l'Arc de Triomphe.
J'y suis jamais allée, et comme je passais devant et que j'ai vu ce matin aux informations que ça réouvrait, j'ai pris le souterrain et je me suis lancée.
La Bourse de Paris perd 0,49% ce soir à 4815 points.
Et bonsoir Anissa, la tendance avec vous.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Eh bien, demain, c'est une journée très humide qui s'annonce pour tout le monde avec une nette baisse des températures pour la façade ouest. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
C'est donc l'image du jour. Les clients qui se réinstallent sur les banquettes des brasseries parisiennes. À l'intérieur, donc, les restaurateurs s'y préparaient. Mais pour lundi prochain, le 22, hier soir, ils ont appris la nouvelle de la bouche d'Emmanuel Macron. Ils peuvent remettre dès aujourd'hui le couvert à l'intérieur, plutôt que prévu. Soulagement, Jean-Jacques Héry, même si les clients finalement ne se bousculaient pas pour rentrer aujourd'hui.
Exactement, la réouverture des salles de restaurant n'était pas encore très visible ce midi. La faute à un grand ciel bleu et un joli soleil printanier, m'expliquait Loïc, le barman du Relais Odéo.
C'est très calme parce que comme il y a du soleil, les gens préfèrent quand même se mettre en terrasse.
On a vu les serveurs s'activer, mais presque uniquement en terrasse où les tables étaient bien remplies. La plupart du temps, le personnel ne faisait que traverser une salle à manger quasi vide. Romain, serveur, faisait les comptes derrière son masque.
Moi, pour l'instant, dans mon rang à moi, à l'intérieur, j'ai fait 3 couverts.
Au total, seulement une douzaine de couverts à l'intérieur. D'ailleurs, parmi les quelques rares clientes qui avaient résisté à l'appel du soleil pour lui préférer les ombres et l'intimité de la salle à manger, j'ai rencontré Corinne, Colette et Naomi. Les 3 vieilles amies ne s'étaient pas revues depuis le début du confinement. Elles savouraient l'instant et leur nem sauce piquante.
On est ravis.
C'est beaucoup mieux pour nous d'être à l'intérieur plutôt que d'être sur une terrasse avec les voitures qui passent, avec les pots d'échappement, etc. Et je pense qu'il est plus sain compte tenu des mesures de sécurité où tout est nettoyé sans arrêt.
On est vieux, on prend ça en compte.
Voilà, reprise timide donc pour le moment et pas pour tout le monde puisqu'un certain nombre de restaurateurs ont été pris de court par les annonces hier d'Emmanuel Macron, notamment ceux qui n'avaient pas de terrasse. Impossible pour eux de rouvrir immédiatement dans l'urgence, tout simplement parce que beaucoup n'avaient aucun produit frais en stock. Pour eux, il faudra encore attendre quelques jours.
Un reportage à Paris, signé Jean-Jacques Héry.
Autre changement en Île-de-France, c'est la fin de l'attestation obligatoire dans les transports en commun.
Et plus besoin du papier de votre employeur pour vous déplacer aux heures de pointe et cela dès demain. En revanche, attention, le port du masque reste obligatoire comme partout dans les transports publics sous peine d'amende de 135 euros.
Emmanuel Macron qui s'est dit fier de la gestion de la crise en France hier soir. Il a été regardé par plus de 23 millions de Français. C'est moins, toutefois, que pendant le confinement le 13 avril. Hein.
Le plus gros de l'épidémie est derrière nous, a confirmé aujourd'hui le ministre de la Santé Olivier Véran. Parmi les annonces, on retient bien sûr l'école à nouveau obligatoire pour tous les élèves dès lundi prochain, ainsi que le collège. Avec des mesures sanitaires assouplies, c'est ce que précisait ce matin sur Europe 1 le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer.
L'allègement fondamental, c'est celui de la distanciation physique. On passe d'un système où on était à 4 mètres carrés à un système beaucoup plus souple, avec un mètre latéral entre chaque élève. Ceci nous permet d'accueillir tous les élèves.
Alors Jean-Michel Blanquer ce matin sur Europe 1, ça c'est sur le papier, on en saura plus demain matin lors de la conférence de presse du ministre, parce que dans les faits, accueillir tout le monde, c'est pas gagné, hein.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Le protocole sanitaire, même allégé, qui maintient un mètre latéral de distance entre chaque enfant, place les directeurs d'école et les proviseurs de collège face à un nouveau casse-tête. Exemple, dans un immense collège à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, 400 élèves sur 1000 ont pu reprendre depuis plusieurs semaines, en petits groupes, quelques jours par semaine. Hier soir, Fabrice a regardé l'allocution d'Emmanuel Macron avec sa fille qui est en quatrième. Elle n'a plus mis les pieds au collège depuis le 13 mars dernier. La suite, c'est son père qui la raconte.
Elle était très heureuse, effectivement, à l'idée de reprendre à partir du 22. Et ce matin, douche froide, mail de la principale du collège qui dit il n'y aura pas de rentrée pour aucun élève à Sèvres pour les quatrièmes et les troisièmes. On joue au yo-yo émotionnel avec, avec nos enfants, là, qui sont, on leur dit tu rentres à l'école, tu rentres plus à l'école. Je trouve ça assez dingue qu'ils n'arrivent pas à accorder leur violon entre le gouvernement et l'éducation nationale.
Et ce yo-yo émotionnel, de très nombreux élèves et parents le vivent depuis ce matin. Les mails de directeurs et proviseurs avec comme objet prudence après l'allocution du président sont légion. Faire entrer une trentaine d'élèves dans une classe de 50 mètres carrés avec ce mètre de distance, c'est tout simplement impossible, me confie une directrice d'école. On devrait connaître demain soir le protocole sanitaire amendé. Et selon les derniers arbitrages, ce mètre de distance latérale, justement, pourrait tout simplement disparaître en maternelle, uniquement pour simplifier l'équation et la tâche des directeurs.
Ah, voilà, il y a les consignes et les annonces du président, puis après il y a la réalité sur le terrain. Merci Victor Delande du service Société d'Europe 1. Un couac aussi aujourd'hui sur le chômage partiel. Ce matin, le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, évoquait une diminution de sa prise en charge au 1er juillet. La participation de l'État serait passée à 60%. Démenti immédiat ensuite de sa collègue, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Aucun changement de prévu au 1er juillet. Et puis cette injonction à travailler davantage qui n'est pas passée inaperçue dans la bouche du président hier soir. Précision de Bruno Le Maire aujourd'hui, il ne s'agit pas de sacrifier des jours de congé, mais de faire en sorte que nous travaillons tous et d'éviter au maximum les licenciements.
On va y revenir d'ailleurs avec les grandes voix longuement hein, dans une petite demi-heure. Et puis Emmanuel Macron qui veut construire, reconstruire une économie écologique, souveraine et solidaire, ce qui n'a pas convaincu le député européen Europe Écologie, Yannick Jadot.
C'est totalement creux. Moi, j'attendais le grand plan pour la jeunesse. On a potentiellement une génération socialement sacrifiée. Il est où le plan pour la jeunesse ? Rien. On attendait le plan de relance pour faire travailler nos artisans, nos entreprises, pour transformer notre agriculture. On n'a rien eu. Et je trouve toujours surprenant qu'un président de la République se cache derrière des grands mots pour masquer son impuissance. Et ça fait 3 ans que Emmanuel Macron nous sort l'écologie, nous sort la justice sociale, nous sort les services publics, nous sort la souveraineté. Ça fait 3 ans qu'il gouverne. En tout cas, les Françaises et les Français ne se payent plus de mots du président de la République. Ils attendent des actes sur l'emploi, ils attendent des actes sur la justice, ils attendent des actes sur la démocratie. Et évidemment, vous l'avez vu, ils attendent des actes sur la transition écologique. Et aujourd'hui, il ne se passe rien.
L'eurodéputé Yannick Jadot au micro Europe 1 de Nathalie Chevance à Marseille.
Et nous avons aussi retrouvé aujourd'hui la liberté de voyager à l'étranger. Les frontières françaises sont désormais ouvertes avec tous les pays de l'Union européenne. J'interrogerai à ce sujet le secrétaire d'État au tourisme dans quelques minutes, Jean-Baptiste Lemoyne.
Oui, on peut voyager désormais en Allemagne, en Autriche, mais aussi chez nos voisins suisses. Alors, il reste encore quelques restrictions imposées par certains pays comme l'Espagne ou la Grèce. Pour avoir la liste précise, je vous renvoie sur europe1.fr. Lionel Gougelot, vous êtes passé en Belgique aujourd'hui. Et vous n'étiez pas le seul pour aller faire les courses du côté de Menin, près de Tourcoing. Grosse affluence et des Français accueillis à bras ouverts.
Ah oui, et quand il a vu ce matin les barrières enlevées au niveau de l'ancien poste frontière de Menin, après 3 mois d'inactivité, Jonathan, gérant d'une boutique de tabac, a poussé un gros ouf de soulagement parce que pour lui, les Français, eh bien, c'est 90% de son chiffre d'affaires.
77 jours sans avoir un sou, on va dire. Donc on est bien content que c'est rouvert la frontière. Nous, on a besoin des Français pour vivre et eux, ils sont contents de venir en Belgique parce que c'est moins cher.
La preuve, le sac de Martine, rempli de pots de tabac et de cartouches de cigarettes.
60€ la cartouche ici, 90 en France. Il y a 30€
Cette habitante de la région lilloise avait hâte de retrouver ses petites habitudes.
Et on est connus, hein. Pourtant on vient qu'une fois par mois, mais ils nous ont reconnus, il n'y a pas de problème. Hein.
Alors bien sûr, on ne vient pas ici que pour les cigarettes.
Se promener, manger une frite et des chocolats.
Mais c'est vrai que pour les frontaliers belges, ce 15 juin est une sorte de délivrance, notamment dans le bistrot de Cindy, qui a eu peur, elle, de mettre la clé sous la porte sans ses clients français.
Il y en a plein qui fermaient parce que voilà, ça ne marchait plus comme avant, quoi. Franchement. Mais ça va, on avait peur au début que ça ne reprend pas, mais ça reprend. Les gens, ça va, on croyait qu'on... Ils allaient avoir peur ou quoi? Mais non, en fait, ça va, ça revit, ça rebouge, c'est très bien, en espérant que ça continue.
Et ce qui est sûr, c'est que le consommateur français n'a jamais été autant le bienvenu de ce côté-ci de la frontière.
Lionel Gougelot à la frontière belge pour Europe 1. Et pendant ce temps, la situation en Chine invite à la prudence, à la crainte d'un rebond de l'épidémie à Pékin. Il y a désormais plus d'une centaine de cas recensés et plusieurs quartiers sont reconfinés.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
25 ans après, lourde condamnation pour les proches d'Edouard Balladur dans l'affaire Karachi liée à sa campagne présidentielle de 1995. Les détails, c'est à suivre.
Et puis les monuments se déconfinent, on vous emmène en haut de l'Arc de Triomphe. Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
C'est une affaire qui dure, hein, qui dure même depuis 25 ans. L'affaire Karachi liée à des contrats d'armement avec le Pakistan.
À l'époque, Édouard Balladur était Premier ministre. 6 de ses proches ont été condamnés aujourd'hui par le tribunal de Paris pour avoir encaissé des commissions illégales, Salomé Legrand. Et c'est la première fois que la justice fait le lien entre ces fonds et le financement de sa campagne présidentielle en 1995.
Oui, pour le tribunal, il y a bien eu des rétrocommissions en marge de ces contrats et certaines ont été versées directement sur les comptes de campagne du Premier ministre d'alors. En énonçant le jugement, la présidente a épinglé chacun des 6 prévenus, qu'ils soient chefs d'entreprise ou dans les cabinets ministériels de l'époque. Des hauts fonctionnaires qui se seraient entendus pour préserver leur poste ou ménager leur carrière. Le jugement étrille un réseau d'intermédiaires, dont Ziad Takieddine, totalement inutile et des commissions exorbitantes. Les juges estiment qu'au moins 6,5 millions de francs ont atterri sur les comptes de campagne de Balladur et que tous les prévenus, je cite, connaissaient parfaitement l'origine frauduleuse des fonds, de quoi constituer des atteintes d'une gravité exceptionnelle au fonctionnement de la vie économique et à la confiance dans la vie publique, répète la présidente, d'où des peines de prison ferme pour les 6 prévenus qui ont déjà annoncé leur volonté de faire appel. Mais ce jugement est aussi un avertissement pour François Léotard et Édouard Balladur, 91 ans, qui eux comparaîtront prochainement devant la Cour de justice de la République.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Des renforts envoyés à Dijon, des policiers et des escadrons de gendarmes mobiles pour tenter de rétablir l'ordre après plusieurs épisodes de violence ce week-end. 3 expéditions punitives, des tirs d'armes à feu menés visiblement par plusieurs dizaines d'individus de la communauté tchétchène qui ont mené des opérations de règlement de compte sur fond de trafic de drogue. On va y revenir à 19h. Et puis la ville de Paris, mise en cause dans l'enquête sur l'explosion de la rue de Trévise en janvier 2019. Elle avait fait 4 morts. C'est ce que confirme le rapport d'expertise définitif qui pointe notamment un défaut de vigilance sur la voirie et qui estime que l'explosion aurait pu être évitée.
Les visiteurs peuvent retrouver les trésors du patrimoine français. Ça y est, hein, Sébastien, les monuments se déconfinent.
Oui, il y a l'abbaye du Mont-Saint-Michel qui a rouvert aujourd'hui, mais aussi l'Arc de Triomphe, Angèle Châtelier, avec un nombre de visiteurs limité. Du coup, on peut visiter sans la foule.
Oui, ils étaient une 20aine à midi à faire la queue sous l'Arc de Triomphe, heure de la réouverture. Tous ont dû réserver un billet en ligne, car la nouvelle règle, c'est 20 visiteurs par créneau de 10 minutes, jusqu'à 1000 personnes par jour, donc contre 8000 d'habitude. L'avantage, c'est que maintenant, fini les file d'attente interminable. C'est ce qui a motivé cette Parisienne à découvrir pour la première fois le monument aujourd'hui.
J'y suis jamais allée et comme je passais devant et que j'ai vu ce matin aux informations que ça réouvrait, j'ai pris le souterrain et je me suis lancée. Étant donné que ça redémarre aujourd'hui, il y aura peu de monde parce que c'est vrai que ce qui me rebute toujours, c'est de ne pas savoir effectivement combien de temps la visite prendra.
Une jauge aussi réduite, c'est donc le meilleur moment pour profiter tranquillement de l'exposition commémorant le centenaire de l'hommage aux soldats inconnus et puis admirer la vue imprenable qu'offre l'Arc de Triomphe sur la capitale. Ce midi, une habitante du quartier avec sa fille a rebroussé chemin après avoir vu le peu de monde. Elle est repartie chercher crayon, papier, pupitre, de quoi prendre le temps de dessiner cette vue. Les visiteurs peuvent rester autant de temps qu'ils le souhaitent une fois que leur créneau est réservé.
Angèle Châtelier, le Panthéon à Paris a également ouvert, où le château de Vincennes et le Louvre lui lance ses réservations en ligne. Donc vous pouvez déjà réserver, mais il faudra attendre le 6 juillet pour l'ouverture.
Et voilà, et 7 musées encore de la ville de Paris dès demain mardi. Comme ça, on sera pas loin d'être au complet. Merci beaucoup Sébastien Krebs. À tout à l'heure, 18h30. Anissa, on lève la tête et on se dit que demain, le ciel sera gris. Journée humide.
Oui, exactement Nathalie. Ne sortez pas sans votre parapluie demain. Vous pourriez le regretter. Alors c'est la première chose à mettre à côté de la porte d'entrée demain matin, parce qu'en début de journée, c'est sur la façade atlantique que les averses seront les plus nombreuses et les plus fréquentes. Donc de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées, demain matin, il pleut. Sur les reliefs alpins aussi, avec en début de journée une matinée très humide. Partout ailleurs, c'est un ciel qui est partagé entre nuages et éclaircies. Puis dans l'après-midi, eh bien, les averses qui touchaient la façade atlantique, elles vont se généraliser avec sur quasiment tout le pays, sauf la Corse et la façade atlantique, des orages qui pourront être violents par endroits, des orages sur l'ensemble de la France. Le Mistral se calme demain dans le sud, mais attention, le vent d'ouest, lui, se renforce sur le littoral méditerranéen et sur la Corse. Les températures, elles sont stationnaires. Demain matin, nous aurons 7 à 14 degrés, 7 à Aurillac, 10 à Limoges et Montluçon, 12 à Poitiers et Épinal, 13 à Paris, 15 à La Rochelle et 18 à Marseille. Et puis dans l'après-midi, là, ça se rafraîchit nettement sur la façade atlantique avec seulement 17 à 23 degrés et nous aurons 23 à 27 degrés sur le reste du pays. Il fera très doux au bord de la Grande Bleue. Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy, avec votre invité dans un instant.
Eh oui, des restaurateurs qui rouvrent et donc qui respirent des frontières européennes également, qui rouvrent. C'est tout un secteur qui redémarre. Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au tourisme, est mon invité sur Europe 1 et c'est dans moins de 2 minutes. À tout de suite.
18h20 sur Europe 1, votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy, et vous recevez ce soir le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne.
Bonsoir Jean-Baptiste Lemoyne.
Bonsoir Nathalie Lévy.
Merci beaucoup d'être avec moi sur Europe 1. Alors ça y est, réouverture des bars et restaurants en Île-de-France, tout comme celle des frontières intra-européennes. La grande transhumance des vacances d'été peut enfin commencer ?
Oui, très clairement. J'incite les Français à réserver leur séjour aux réservations citoyens, si je puis dire, pour ces vacances bleu-blanc-rouge. Et puis, j'ai souhaité également adresser ce message à nos voisins européens, parce que, vous le disiez, les frontières rouvrent à nouveau depuis aujourd'hui. Et j'ai été en Belgique, à Vervique, où coule la Lys, justement, entre la France et la Belgique, pour passer ce message de bienvenue à nos voisins, pour qui la France est la première destination. Eh bien, je veux leur dire, soyez les bienvenus, welcome. Les professionnels français se sont préparés avec soin, avec rigueur, avec ces protocoles sanitaires. Je peux vous dire qu'ils ont des fourmis dans les jambes, eux dont le plaisir est de faire plaisir aux autres.
Oui, alors justement, vous êtes depuis la Belgique là, avec nous sur Europe 1, mais la question c'est celle-là. Comment vous allez vendre la destination France pour cet été, outre évidemment la sécurisation niveau sanitaire, avec des prix bas, ça peut être une garantie ?
Alors, la garantie financière qu'on apporte, elle est d'une nature un peu différente. Les professionnels se sont engagés à mettre beaucoup de flexibilité dans les conditions d'annulation. Or, on le sait, beaucoup de clients, de voyageurs ont besoin de cette assurance parce qu'ils craignent une possible deuxième vague, ils craignent éventuellement des problèmes liés au Covid-19 et donc, je remercie justement les professionnels d'hôtellerie, de la restauration, l'UMIH, le GNI, mais également les entreprises du voyage qui se sont engagées à ce que les conditions d'annulation soient souples. Et ça fait partie des éléments qui vont permettre, je crois, aux étrangers de réserver,
Sauf que Jean-Baptiste Lemoyne, elle a déjà un petit peu commencé, cette notion de réservation, puisqu'on a vu, ça commence à reprendre depuis qu'on a ouvert au-delà des 100 km, mais quand même très faiblement, puisque des trains sont déjà annulés faute de réservation. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué de dire que c'est juste la flexibilité qui peut attirer.
Alors, ça va être une reprise progressive. C'est pourquoi, d'ailleurs, on souhaite accompagner les professionnels d'un point de vue financier jusqu'à la fin de l'année 2020, parce qu'on est conscient que les jauges ne seront peut-être pas ce qu'elles ont été par le passé.
Ça veut dire au-delà des 18 milliards d'euros qui ont déjà été mis sur la table pour ce secteur ?
Eh bien, ça veut dire ces 18 milliards d'euros, ça comprend notamment la poursuite de l'activité partielle, la poursuite du fonds de solidarité jusqu'à décembre 2020, très clairement. Et puis, ce que je veux dire, c'est que pour faire le point avec les professionnels, chaque mardi dans le cadre du comité de filière tourisme, ils me font part, par exemple dans l'hôtellerie de plein air, d'un rattrapage très important dans les réservations.
De quel ordre, Jean-Baptiste Lemoyne ?
Il y a un mois.
De quel ordre ?
Là, aujourd'hui, ils en sont quasiment revenus par rapport à ce qu'ils faisaient l'année dernière au même moment. Donc, le rattrapage est là. Les Gîtes de France, ils ont multiplié par 10 chaque jour leurs réservations. Et l'hôtellerie est en train de rouvrir de façon progressive. Certaines chaînes ont déjà rouvert 80% de leurs hôtels. Les taux d'occupation ne tournent aujourd'hui qu'autour de 25 à 30%. Et c'est pourquoi, je le dis aux Français à travers votre antenne, cet été, je pense qu'il doit être un été bleu-blanc-rouge. D'une part, parce qu'en faisant le tour de France, je vais vous dire, vous faites le tour du monde. Quand vous voyez justement la diversité des paysages, etc., il y a tout ici et il y en a pour tous les goûts.
Mais quand même, vous savez très bien, Jean-Baptiste Lemoyne, qu'on compte beaucoup en France sur les touristes mondiaux, européens. Alors justement, parce qu'on est normalement sur cette période en pic de fréquentation de visiteurs attendus en juillet-août, quelles sont vos perspectives chiffrées en termes de retour d'abord des touristes européens, puisque c'est eux pour l'instant qu'on accueille, et puis dans un deuxième temps, à partir de juillet, des touristes venus du monde entier. Les perspectives ?
Alors, très compliqué de donner des chiffres agrégés, mais c'est pourquoi je prends mon bâton de pèlerin, qu'aujourd'hui je suis en Belgique, que je m'adresse à tous vos homologues médias des Pays-Bas, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, etc., pour lancer ce message de bienvenue en France à toutes ces clientèles européennes. Parce que les clientèles européennes, ça représente en fait 3/4 des clientèles internationales en France. Et donc, il y a la capacité, je dirais, à faire redémarrer ce moteur maintenant qu'entre Européens, nous avons pris cette décision dès aujourd'hui, pour les trois quarts des États, de lever les contrôles, oui. de faire en sorte qu'il n'y ait plus de frein à la mobilité.
Alors,
et puis,
si
à partir du 1er oui. juillet, à partir du 1er juillet, il y aura également la capacité pour des ressortissants d'États qui ne sont pas européens à revenir en Europe. On est en train de travailler sur la liste de ces pays parce que c'est conditionné à la maîtrise de l'épidémie. Mmh. Donc, tout le monde ne pourra peut-être pas revenir dans les mêmes conditions. Mais petit à petit, vous voyez, oui. on repart. Il y a eu dans un premier temps le moteur domestique. Maintenant, le moteur européen qui prend la relève et on compte bien sur le moteur international et plutôt au deuxième semestre.
Oui, alors j'entends bien le moteur international. C'est important d'y aller parce qu'on voit bien qu'il y a des signes d'ouverture et il y aura une réouverture concrète. Ce alors que la Chine a annoncé un rebond des nouveaux cas de Covid-19, ce qui fait craindre une seconde vague de l'épidémie. On pense la maladie sous contrôle, mais si la situation en Chine, elle s'aggrave, qu'est-ce qu'on fait, Jean-Baptiste Lemoyne ?
Alors, c'est bien pour ça que là, on s'est donné 15 jours entre Européens pour travailler sur cette liste de pays. Quels sont les pays pour lesquels on accepte les ressortissants ? Quels sont les pays où l'épidémie est jugulée ? Les pays où il faudra peut-être demander un certain nombre de précautions auparavant aux voyageurs. Donc, le travail, il est en cours et on va le faire naturellement
mais
en
est-ce qu'on
étant
peut
plus
imaginer...
scrupuleux sur les conditions sanitaires.
Mais est-ce que vous écartez totalement de refermer de nouveau les frontières, dans l'ordre ou dans le désordre, d'ailleurs, si évidemment la menace était plus importante encore ?
Écoutez, à chaque jour suffit sa peine. Pour l'instant, on est dans la phase de déconfinement. L'épidémie est jugulée en France. Elle l'est également très largement en Europe. Maintenant, il faut continuer à être très rigoureux sur le respect des gestes barrières, de la distanciation, le respect des protocoles sanitaires. C'est ça qui permettra effectivement de gagner le combat sur le long terme et d'éviter une rechute. Donc, naturellement, on va être toujours très vigilant tout au long de cet été.
Le secteur touristique a été 3 mois à l'arrêt, hein, si on fait les comptes. Au fond, quel est à ce jour le manque à gagner pour la filière ?
Ben écoutez, 3 mois à l'arrêt, c'est entre 30 et 40 milliards d'euros de perte de recettes. C'est considérable. C'est un secteur économique, vous le savez, qui représente presque 8% de notre richesse nationale. Et puis, en fait, ça représente plus que ça parce qu'on le voit à travers l'impact en amont des restaurants qui ne sont pas ouverts. Eh bien, c'est un impact sur les producteurs, sur les pêcheurs qui ont moins de débouchés. Et puis également en aval, parce qu'il y a beaucoup de services associés. Je pense aux autocaristes, je pense aux guides conférenciers. Je pense à énormément d'activités également du secteur de l'événementiel qui sont très liées au tourisme. Et ces activités-là, certaines sont encore fermées. Je veux leur dire que on continue à travailler pour trouver des assouplissements et des moyens de réouvrir.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Lemoyne d'avoir répondu ce soir à mes questions sur Europe 1. Jean-Baptiste
Lemoyne,
secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires européennes et Affaires étrangères. Merci à vous.
Europe 1. À suivre Nathalie Lévy.
Les grandes voix qui s'installent dans ce studio d'une seconde à l'autre, Gérard Carreiro et Charles Villeneuve, le duo du lundi au programme. Évidemment, nous allons revenir sur le discours d'Emmanuel Macron hier soir. C'est sur Europe 1 dans moins d'une minute.
18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy,
avec votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Le casse-tête à nouveau à l'école et dans les collèges. Comment accueillir tous les élèves, même avec un protocole sanitaire allégé ? Plusieurs directeurs d'établissements estiment qu'ils ne seront pas en mesure de le faire, malgré la volonté d'Emmanuel Macron de rendre à nouveau l'école obligatoire. Plus besoin d'attestation pour prendre les transports en Ile-de-France aux heures de pointe. Cette obligation est levée dès demain. En revanche, le port du masque reste obligatoire. Des applaudissements et après, les soignants relancent leur mobilisation pour l'hôpital. Ils seront dans la rue demain. Aujourd'hui, un décret a été publié pour que leurs heures supplémentaires majorées pendant la crise soient payées avant le 1er septembre. La candidate LR à Marseille, accusée de fraude aux procurations, Martine Vassal, propose d'annuler toutes celles qui ont été signées par ses équipes. Une enquête est ouverte par la justice. Paris-Normandie va rejoindre la Voie du Nord. Le tribunal de commerce de Rouen a retenu l'offre du groupe belge Rossel pour prendre le quotidien en difficulté. Groupe qui est par ailleurs propriétaire du journal lillois. Il prévoit 60 licenciements. Boris Johnson estime qu'un accord sur le Brexit est possible dès le mois prochain. Le Premier ministre a convenu aujourd'hui de redonner un nouvel élan aux négociations avec les Européens. Et puis la crainte de plus en plus forte à Pékin de voir rebondir l'épidémie. Plus de 100 nouveaux cas confirmés après plus de 50 jours sans aucune nouvelle contamination. Le foyer semble être parti d'un grand marché.
Merci beaucoup Sébastien Krebs. Plus d'infos avec vous à 19h dans votre journal. Anissa, de la pluie demain, on s'y prépare.
Oui, exactement Nathalie, avec d'abord le matin sur toute la façade atlantique de nombreuses averses de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées. Dans l'après-midi, les averses se généralisent sur l'ensemble du pays, avec attention sur l'ensemble de la France, de nombreux orages qui pourront être localement assez forts. Les températures le matin, elles sont stationnaires, 9 à 14 degrés, et l'après-midi, elles baissent bien sur la façade atlantique avec 17 à 23 seulement.
Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, avec comme tous les soirs jusqu'à 19h, les grandes voix qui sont là et qui débattent ce soir autour de vous. Nathalie Lévy, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Bienvenue à vous. Vous avez bien entendu suivi l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. Le président de la République a esquissé ce qu'il appelle un nouveau chemin vers la présidentielle notamment. On va y revenir dans le détail avec vous, avec des mots, avec une fermeté, avec une force dans le ton, une primauté, une autorité présidentielle rappelée aussi s'agissant du racisme et des statuts déboulonnés comme ça a été le cas, on l'a vu depuis plusieurs jours maintenant. Gérard Carrérou.
Oui, c'est la partie, je dirais, qui m'a donné le plus de satisfaction dans les propos du président d'hier soir. On parlera tout à l'heure, j'imagine, de l'économie,
des autres aspects, bien sûr, du travailler davantage,
et éventuellement de sa campagne présidentielle. Mais je voulais vraiment souligner, pour moi, c'est le discours de la loi et de l'ordre républicain. Et ce n'était pas évident, vu les pressions qui s'exerçaient depuis 2 semaines, et vu le tempérament du président de la République, en même temps, on pouvait s'attendre ou craindre qu'on renvoie un petit peu dos à dos les policiers qui sont mécontents, à juste titre, et puis les
franges de la population,
la frange racialiste et indigéniste qui fait des manifestations.
Ah, carrément.
Oui, parce que c'est quand même eux qui mènent la danse, même s'ils sont pas tout seuls dans les manifs, c'est eux qui mènent la danse. Donc je pensais qu'ils pouvaient et là c'est clair, il a dit des mots qui sont forts, les mots de séparatisme, de communautarisme, l'écriture haineuse entre guillemets ou fausse du passé. Et ça, je pense que c'était absolument nécessaire. Au fond, on a parfois ici, d'ailleurs, à Europe, reproché à Macron d'être un peu flou sur le côté, justement. Et on disait, c'est un peu la part
l'angle mort. Et c'est Édouard Philippe qui est martial.
Parce qu'au départ, ce jeune homme, parce que c'était un très jeune homme dans sa campagne présidentielle, était plutôt... comme les anglo-saxons, plutôt un peu communautaristes, lui trouvaient que c'était pas mal, multiculturel, etc. Ça fait 3 ans qu'il est président, il a vu comment la situation s'est développée, et là, je crois qu'il a remis la pendule à l'heure, et l'Église, comme on dit volontiers, alors, l'Église
au milieu du... Ça ne vous a pas fait penser d'ailleurs à ce qu'on entend outre-Atlantique, avec un Donald Trump qui est dans le modus operandi, la loi et l'ordre, à la façon de Nixon en 69 ?
Non. Macron n'est pas Trump et ne s'exprime pas par une série de tweets qui sont assez désarçonnants.
Non, mais uniquement sur ce modèle-là.
Non, moi, c'est vrai, je suis d'accord avec Gérard, c'est vrai que c'est clairement le passage du discours le plus expressif, le plus clair. Parce que pour le reste, on peut en parler. Mais je dirais que c'est trop peu et trop tard. Il reste l'image d'un président silencieux pendant 10 jours, qu'a demandé au ministre de l'Ordre, c'est-à-dire Castaner, et au ministre de la Justice, c'est-à-dire Madame Belloubet, de prendre des initiatives pour calmer les comités Traoré au détriment de la majorité silencieuse et des forces de l'ordre. Les plus silencieux de ces forces de l'ordre, ce ne sont pas les policiers, parce que les policiers ne s'y sont pas trompés. D'ailleurs, parce qu'ils attendent des actes. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est dans la sémantique. Mmh. Et quel acte ? D'autant qu'ils, eux, s'estiment, si vous voulez, désamorcés sur le plan de l'interpellation de ceux qui ne veulent pas justement l'être et qui, en général, s'opposent de plus en plus fermement, on l'a vu dans les images de ce week-end, notamment à l'égard d'une policière, véritablement lynchée sous l'œil des caméras. Bon. Et les gendarmes, eux, quand vous discutez avec les plus gradés même d'entre eux, ne sont pas dupes du tout de ce qui les attend. Et si, par leur statut, ils ne peuvent s'exprimer, ils sont, je dirais, plus précis même que les syndicats de policiers. Et ça n'est pas tendre, si vous voulez, pour le pouvoir exécutif. Alors, le président sait qu'il lui faut trouver un nouveau ministre de l'Intérieur et une nouvelle garde des Sceaux, et qui apaise les esprits, qui protège le président. Parce que là, le président a été mis en cause directement. Et c'est la raison pour laquelle cette mauvaise humeur n'est pas apaisée encore. Mauvaise humeur, c'est, je suis même tendre, oui, si vous voulez.
En dessous de la réalité, on est effectivement.
La manière dont ils se sont exprimés avec moi. Et puis, partant de là, c'est pas si facile.
Non, mais Charles, si tu me permets quand même d'entrer dans le deuxième acte, tu dis c'est trop tard, un peu tard. C'est peut-être un peu tard, mais il se trouve que son discours était prévu pour dimanche. Mais c'est jamais trop tard pour bien faire, d'abord, je dirais. Et deuxièmement, il y aura un deuxième acte. Le deuxième acte interviendra en juillet, au moment du remaniement. Voilà. On peut déjà dire que seront virés du gouvernement, vraisemblablement, on peut le dire, mais certainement, Castaner et la garde des Sceaux, et que la situation montre l'urgence de cela. Regardez ce qui s'est passé la nuit dernière. On a maintenant des gangs de Tchétchènes, des gangs, il ne s'agit pas de 5 personnes,
bien sûr,
centaines de personnes qui à Lyon, pour 3 jours de suite, s'entrebattent avec des gangs maghrébins. Vous vous rendez compte de ce qu'est la situation de la France quand dans la banlieue d'une grande ville.
Oui, mais si on est dans cette situation, j'en reviens juste en un mot, au propos que j'ai développé, c'est qu'on a attendu 10 jours pour le faire et qu'on a laissé monter en puissance ce genre de manifestation. Et d'ailleurs, de plus en plus, je me demande si on ne verse pas dans une société d'affrontement plutôt que de réflexion.
Oui, voilà. Mais c'est bien quand même de ne pas déboulonner. Moi qui suis allé, par exemple, au Collège Colbert, je suis fier d'être allé faire mes humanités au Collège Colbert. Je suis fier d'avoir lu tout ce que j'ai lu sur ce grand ministre de Louis XIV. Je trouve indécent que des gens aient voulu s'en prendre. Et quand je vois un ancien Premier ministre de la République,
Jean-Marc Ayrault,
en l'occurrence Jean-Marc Ayrault, qui a le culot, cet ancien Premier ministre, de vouloir débaptiser la salle Colbert. La salle Colbert, pour tous ceux qui fréquentent, et moi je l'ai fréquenté pendant 50 ans, l'Assemblée nationale, c'est la salle où se réunit toujours le groupe majoritaire.
La plus prestigieuse depuis
le général de Gaulle. C'est un peu une insulte même au général de Gaulle que de
vouloir... Vous savez juste, messieurs, que c'est pas le président de la République qui a la main sur ces choses-là. C'est-à-dire que si l'Assemblée nationale, on doit débaptiser une salle, c'est à l'Assemblée nationale de décider. Les noms des rues relèvent des municipalités, de même que le choix des statuts. Donc, on a eu un président très ferme, mais Gérard
n'implique pas le président de la République,
bien sûr,
mais un ancien Premier ministre qui, justement, a été député de Nantes, d'ailleurs, maire de Nantes d'abord, et député ensuite, et qui a l'habitude, justement, de la salle Colbert. Ouais. Comme un certain nombre d'entre nous avaient l'habitude de la salle Colbert où se tiennent en général les conférences de presse, les interviews
bien
des journalistes.
Bien sûr. Alors on se retrouve dans un instant, on va dérouler la suite de son allocution au président sur l'aspect économique des choses. Il a eu une phrase évidemment qui a fait largement réagir, notamment sur le travail des Français. Travailler et produire davantage. À tout de suite messieurs, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, les grandes voix. Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve, jusqu'à 19h. Et Emmanuel Macron qui s'est offert aussi un satisfecit sur sa gestion de sa crise, sur la gestion de la crise. Hier soir devant les Français, l'État a tenu, a dit le président de la République. Et puis le président de la République a continué à développer bien sûr sur ce qu'il attend des Français. Charles Villeneuve, qu'a voulu dire le président quand il demande aux Français de travailler et produire davantage? Parce que évidemment, c'est la phrase qui a fait réagir. Bruno Le Maire s'en est emparé aussi ce matin. Et puis Laurent Berger pour la CFDT, bien sûr.
Mais le président de la République sait mieux que personne que la France n'a plus de marge de manœuvre budgétaire. On est passé en 3 mois, je vous le rappelle, d'un déficit de 2% de la richesse nationale à 11% et d'une dette publique de 98% à 120% du PIB, du produit intérieur brut. Et pour combler un tel écart, il faut une forte croissance dans les 3 ans qui viennent, d'où la phrase « Travailler plus pour produire mieux ». Ça, c'est le programme du futur gouvernement, donc du deuxième discours de juillet, après les élections municipales, et d'ailleurs le plus attendu entre nous. C'est là que le casting est important. Qui sera celui qui conduira la nouvelle équipe? D'autant que le Premier ministre actuel, Philippe, n'est pas un souverainiste, ni un écologiste. C'est la mode, on verra jusqu'à quand.
Ça a été le cas hier soir.
Et il n'y a pas de figure écologique dans l'équipe d'Emmanuel Macron à l'heure actuelle. D'autant qu'il faut attendre les résultats du deuxième tour, parce que les écolos peuvent, si vous voulez, changer l'atmosphère s'ils remportent Strasbourg, Toulouse et Lyon. Et ça, le président de la République devra en tenir compte.
Tout à fait. Cette ville rose sur laquelle on va zoomer dans un instant, évidemment, avec les sondages aussi, à 15 jours du deuxième tour des municipales. Évidemment, Gérard, la question, elle est dans la tête de tous les Français, du côté des syndicats. Quand on entend travailler plus, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que ça veut dire travailler tous et mieux? Si on le comprend ainsi, et si ça veut vraiment dire ça, Laurent Berger dit OK. Si ça veut dire travailler plus pour ceux qui ont déjà travaillé et travailler plus en termes de durée, là, ça ne passera pas. Ça, et de toute façon, ça ne passera pas.
J'ai envie de dire les deux, mon colonel. Vous n'êtes pas colonel, mais les deux. Je pense qu'il y a un peu des deux.
Tu peux dire mon capitaine.
Il faudra travailler. Effectivement, il faudra que la France, globalement, travaille plus. Parce que si on veut ne pas se distancier des autres pays comme l'Allemagne, déjà, on était déjà loin. Donc, il faudra travailler plus. Alors, travailler plus, ça veut pas
renoncer
dire...
à des jours de congé, ils ont dit non. Vous avez entendu Bruno Le Maire ce matin.
Écoutez, laissons l'intelligence collective. Ça va se négocier probablement dans un certain nombre. Ça a commencé.
Tout à fait.
Dans un certain nombre d'entreprises. C'est une question qui va se négocier.
C'est ce que je voulais dire.
Ça ne sera pas décrété.
Non, c'est ça. Ça va être décrété.
Parce que là, ça serait la révolution. Voilà. Si le président.
C'est,
parce qu'on a eu que la bande
syndicale.
Oui, c'est ça. On l'a vu dans une enseigne qui s'appelle De Richebourg. Ça a commencé déjà. Chez Ryanair, c'est plus violent, plus virulent.
Donc, on a
mais ça
vu
a commencé.
Que la bande annonce là, du président de la République, il a fait la bande annonce de son discours de juillet, du 14 juillet ou après, je crois que c'est le 14 ou le 17, je ne sais plus. Enfin bon, on donne des dates déjà, mais on n'a pas la confirmation. Mais c'est la bande annonce.
Disons au lendemain du deuxième tour.
Mais dans cette bande annonce, il y a quand même deux choses qui vont être difficiles. Il y a quelque chose qui est du macronisme fondamental depuis le début, c'est qu'il a une foi européenne. Et donc, sa relance va être marquée du sceau de la relance européenne. Et par exemple, d'essayer de faire des accords sur la production des médicaments, ce qui n'avait pas été le cas lors du virus, du médicament pour toute l'Europe. On ne peut pas faire des usines de médicaments uniquement pour le marché français. Bon. Donc, il y aura à la fois l'Europe, mais il y a un deuxième volet. Et c'est là que le mariage des deux va être un peu difficile. C'est qu'il parle de souverainisme.
Mais oui, c'est ça ce que j'allais vous dire, Gérard. Par définition, dit plusieurs fois, il dit une dizaine de fois les mots indépendant, indépendance et souveraine pour la France.
Oui, alors souveraine pour la France, en fait, souveraine, c'est plutôt souveraine pour l'Europe, parce que souveraine pour la France, c'est plutôt le propos de Marine Le Pen et ce qu'on appelle les souverainistes en France. C'est pas le propos de Macron.
Oui, mais d'ailleurs, Emmanuel Macron, je trouve, a opéré une mue durant ce confinement. Et il s'est rapproché vers des codes chevènementistes. Là, tu viens de le souligner. Imprégné de souveraineté, de responsabilité républicaine, il a prononcé le mot « nation » 5 fois en 19 minutes.
Ah oui, si vous avez fait le compte.
C'est tout de même un virage par rapport au libéral qu'il était.
Et qui critiquait le nationalisme à tous ses discours.
Et jusqu'à la crise du Covid-19. Il s'est aperçu, je trouve, tardivement de notre dépendance industrielle à l'égard des Chinois. Et donc, s'il veut revenir vers ça, il a raison de compter sur l'Europe. Parce que ça ne peut se faire dans une entité européenne.
Eh oui, c'est ça. Alors, tout cela, un avant-goût de ce qu'il annoncera vraiment dans 15 jours, 3 semaines. En tout cas, c'était effectivement le teasing, comme nous l'a fait le président de la République hier soir. On se retrouve dans un petit instant. On zoome donc ce soir sur la ville rose, Toulouse, avant le second tour des municipales. À tout de suite. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec les grandes voix jusqu'à 19h. Gérard Carrérou, Charles Villeneuve et Adélaïde Zulfikar-Pazic, directrice de BVA Opinion. Bonsoir Adélaïde.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio. On vous retrouve évidemment avec vos sondages, avec vos enquêtes d'opinion. Et on va zoomer parce qu'on est maintenant à quoi 13 jours du second tour des municipales. Ce soir sur la ville rose, sur Toulouse. Sondage BVA, La Tribune, vous êtes directrice de ce département. Le second tour, il s'annonce comment? Premier enseignement de cette enquête?
Le premier enseignement, je dirais, c'est que de même que la crise du Covid a joué les troubles faits à l'occasion du premier tour en s'invitant et en pesant lourdement sur la participation, cette crise va forcément peser aussi sur le second tour, à la fois sur les enjeux, en venant bouleverser un peu la donne, et puis aussi en jouant sur la participation. Sur les enjeux, de manière très concrète, on va assister quand même d'une certaine manière, puisque c'est la première fois que les électeurs seront appelés à revenir aux urnes après la crise, à une sorte un peu de renationalisation des enjeux. Et d'ailleurs, les Toulousains nous disent aux deux tiers anticiper des conséquences durables de la crise sur leur quotidien au sein de leur métropole. Et évidemment, ce qu'ils redoutent le plus, c'est d'une part la crise économique et la crise sociale. Loin devant le risque sanitaire, ce qui est assez surprenant, on dirait qu'ils ont quasiment déjà tourné la page.
Dans le monde d'après.
Voilà. Ouais. Et puis, loin aussi devant le risque d'une aggravation de la crise environnementale, ce qui ne veut pas dire qu'ils en font un sujet secondaire, mais leur préoccupation principale, d'abord, c'est la crise économique et les conséquences sociales.
On va rappeler juste la liste d'Union de la gauche, elle est menée par Antoine Maurice, et la liste du maire sortant, le maire Les Républicains, c'est Jean-Luc Boudin, qui, bien sûr. On est donc quoi, ça se joue à quoi?
C'est un mouchoir de poche. On sent une légère dynamique de l'Union de la gauche, de la liste archipel menée par Antoine Maurice. 51% des voix devant 49% pour Jean-Luc Boudin. L'honnêteté intellectuelle me pousse à vous dire qu'un 51-49 à cet échange du scrutin, c'est très peu et c'est vraiment du coude à coude. Avec un enjeu qui va être très fort, qui est celui de la participation électorale. Elle a été très faible, comme partout en France, au premier tour. 15 points de moins qu'en 2014. Là, on anticipe une participation plus forte qu'au premier tour de cette année, mais quand même moins forte qu'en 2014, avec une question qui va être fondamentale, c'est qui va aller voter.
C'est ça.
Plus de 65 ans sont encore un peu frileux, restent chez eux, ça peut être préjudiciable au maire sortant, parce que son socle électoral est d'abord constitué de personnes de 65 ans et plus. Voilà, donc cette question de la participation va être cruciale pour l'issue du scrutin, puisqu'on est vraiment à un point
près. Oui, c'est rien. Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, vous connaissez bien la ville de Toulouse.
Écoutez, je me souviens d'avoir interviewé, une de mes premières interviews de municipales, c'était les municipales de 70, dans les années 70, c'était M. Louis Bazerque, maire socialiste de Toulouse, qui avait d'ailleurs fait plusieurs mandats. Je crois qu'il est resté au moins 2 mandats, c'est-à-dire 12, voire même 3 mandats. Et puis après, j'ai eu l'occasion, comme d'autres, d'interviewer les 2 Baudis, puisqu'il y a eu le père et le fils. Bon, donc la ville n'est pas une ville, je dirais, extrémiste. C'est une ville où effectivement il y a une tradition socialiste qui a existé et il y a une tradition centriste. Et je pense que là, c'est pour ça peut-être que ce que vous nous dites du sondage montre que c'est ric-rac. Parce que il faudra pas grand-chose pour que ça passe d'un côté à l'autre. Et c'est pas l'extrême droite contre, je sais pas quoi, contre l'extrême gauche. C'est vraiment le centre-droit de M. Moudin contre probablement une gauche assez social-démocrate.
Qui va quand même jusqu'à la France insoumise.
Il y a quand même la France insoumise.
C'est un département ratsoc depuis toujours, radical socialiste. Et donc centriste, soit une fois centriste de gauche, centriste de droite. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que la candidate socialiste, qui porte un nom typiquement de la région, d'ailleurs, elle n'a pas voulu s'allier avec les écolos. Et est-ce que ça peut peser dans le vote en faveur de Moudinque?
Ça va se jouer effectivement dans ce 1 ou 2 points qui séparent les 2 candidats. Ça va se jouer là, puisque ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les électeurs LR et ou La République En Marche qui ont voté pour Moudinque au premier tour nous disent assurément avoir l'intention de voter pour lui au second tour. Le mécanisme de report de voix des électeurs potentiels d'Antoine Maurice est un petit peu moins évident. On a effectivement une part, certes minime, mais non négligeable, d'électeurs de Nadia Pelfig et y compris de Pierre Cohen qui nous disent: je ne suis pas complètement sûre d'aller voter pour Antoine Maurice. Et alors, ils n'iront pas voter pour Moudinque, mais en revanche, ils peuvent décider de s'abstenir. C'est pour ça que je disais que la question de la mobilisation des électeurs dans les 15 jours qui viennent sera fondamentale.
Mais est-ce que M. Moudinque a été considéré par les Toulousains comme trop Macron compatible, c'est-à-dire trop proche du président de la République actuel, ou pas?
Je ne pourrais pas vous dire, parce qu'on ne pose pas la question dans ces termes-là. Il a plutôt un bilan jugé positivement, même s'il n'a pas non plus un score incroyable par rapport à ce qu'on peut mesurer pour d'autres maires. Un bilan jugé positivement par 2/3 des personnes interrogées. Les Toulousains sont plutôt satisfaits.
En revanche, Adélaïde Zulfi Karpazic, quand on parle de crise économique et sociale, puisque c'est la première préoccupation aujourd'hui des Toulousains, là c'est Jean-Luc Moudin qui tient un peu la corde.
Voilà, il est jugé comme étant le plus légitime pour protéger la ville face à ces enjeux. Globalement d'ailleurs, sur tous les enjeux qu'on a testé, à l'exception de l'enjeu environnemental, il est jugé comme le plus crédible. Je tempérais quand même ce résultat en disant que c'est souvent ce qu'on observe dans les enquêtes municipales, on a une primo sortant. Rappelez-vous le sondage qu'on a fait pour Paris avant le mois de mars, alors qu'Anne Hidalgo était complètement décriée, c'est quand même elle qui était jugée la plus compétente, la plus ceci, parce qu'il y a le bilan et l'expérience du maire sortant. Et Antoine Maurice était un parfait inconnu du grand public il y a un an aussi.
Merci, on va s'arrêter là. On reviendra avec vous sur Marseille et aussi sur Paris, la capitale, évidemment, Adélaïde Zulfi Karpazic, directrice du département Opinion chez BVA et avec les grandes voix ici présentes. Merci Charles, merci Gérard, à demain.
Merci. Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
On est toujours sur des primes ou des médailles ou des choses honorifiques, alors qu'en réalité, nous, ce qu'on veut, c'est le fond, avoir une reconnaissance de notre travail, de nos métiers en soi.
Des applaudissements et après, les soignants relancent leur mobilisation pour l'hôpital. Ils seront dans la rue demain.
Le retour à l'école officiellement obligatoire la semaine prochaine tourne au casse-tête. Certains établissements ne pourront pas accueillir tout le monde.
Les frontières de l'Europe s'ouvrent une à une. Nous achevons ce soir notre tour du déconfinement à Athènes.
Dans ce journal aussi, Dijon sous tension après des expéditions punitives menées par la communauté tchétchène.
Et on se projette sur demain. Demain, dans le monde, la crise sociale au Liban qui ressurgit.
Et puis demain en France, l'ascension du Mont Blanc, réglementée.
Enfin, on ira faire un peu de sport en salle puisque c'est désormais autorisé en Île-de-France. La région est passée au vert.
Et la tendance, c'est Anissa.
Parapluie, imper et bottes. Demain, vous l'avez compris, c'est une journée très humide au programme et les températures en baisse sur la façade ouest. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Des promesses de médailles et d'un 14 juillet dédié aux femmes et aux hommes de la ligne de front. Les soignants ne s'en contenteront pas. La crise de l'hôpital est trop profonde. Pas un mot hier soir dans l'intervention d'Emmanuel Macron sur ce sujet. Mais le Ségur de la santé est toujours en cours. Et demain, les médecins, infirmiers, aides-soignants, 12 syndicats et organisations appellent à manifester dans toute la France. Écoutez, Yasmina, elle est infirmière à Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, elle fait partie du collectif Inter-Urgence.
Les applaudissements, c'était intéressant et c'était une forme de solidarité qui était importante sur le moment. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, on transforme ça en quelque chose de concret et on transforme ça en du soutien dans la rue. Ce qu'on veut et ce qu'on exige depuis vraiment un an, c'est de pouvoir avoir des conditions d'accueil et de travail qui soient dignes à la fois pour les patients mais aussi pour les soignants. Qu'on arrête cette maltraitance, que ce soit une maltraitance pour les soignants et une maltraitance pour les patients, parce que les conditions de travail ne sont pas acceptables. Ce qu'on demande en concret, c'est la même chose, c'est-à-dire une revalorisation salariale de 300 euros net par mois pour l'ensemble des hospitaliers, plus de lits, plus d'effectifs. Je pense qu'on est tous épuisés. Il y a une fatigue psychologique aussi, parce que ça a été très dur à vivre et ça a beaucoup interrogé sur le sens de nos métiers. Après un an, après la crise Covid, après tout ça, on est toujours sur des revalorisations qui sont ponctuelles, des primes ou des médailles ou des choses honorifiques, alors qu'en réalité, nous, ce qu'on veut, c'est le fond, à avoir une reconnaissance de notre travail, de nos métiers en soi.
Voilà le témoignage de cette infirmière à Saint-Denis. Elle sera dans la rue demain. Elle répondait à Caroline Baudry pour Europe 1.
Et juste après le journal, restez avec nous. Mon invité, François Salacas, il avait interpellé Emmanuel Macron. Souvenez-vous, c'est ce neurologue à la Pitié Salpêtrière qui s'était adressé directement au président de la République en face à face.
Les écoles et collèges accueilleront tous les élèves lundi prochain, le 22 juin. Ça, c'est la consigne présidentielle annoncée hier soir à 20h devant 23 millions de téléspectateurs. Combien seront-ils dans les faits en classe ? Ça s'annonce compliqué.
Ah oui, le protocole sanitaire sera assoupli, précisé ce matin sur Europe 1 le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Mais malgré cela, les directeurs d'école craignent de ne pas y arriver.
Écoutez, Olivier Flippot, il est directeur d'une école à Cergy et délégué SE UNSA dans le département du 95.
On veut savoir concrètement comment ça va se passer, si les contraintes vont être largement levées ou pas. Pour la phase 1 et 2, nous avions la possibilité de prévoir un fonctionnement qui était extrêmement carré, défini à l'avance. Là, dans ce système-là, on se retrouve avec une équation à plusieurs inconnus et dont c'est pour lesquels ces inconnus vont le rester jusqu'au lundi 22. Et ça va être très compliqué à gérer. Là, j'ai eu énormément de sollicitations aujourd'hui de familles qui sont inquiètes, beaucoup plus sur le côté obligatoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous arriver si nous ne remettons pas nos enfants à l'école. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de familles, voire beaucoup de familles, qui vont refuser que leur enfant reprenne l'école avant l'été.
Un directeur d'école du Val d'Oise avec Sophie Echène. La marche arrière continue sur l'hydroxychloroquine, y compris aux États-Unis, où le médicament était défendu par le président Trump lui-même. L'agence américaine du médicament retire finalement l'autorisation d'urgence qui avait été accordée pour le traitement de la Covid-19, estimant que ce médicament n'est plus raisonnable de croire que ce médicament est efficace.
Et pendant ce temps, Pékin s'inquiète et craint d'assister à une résurgence de l'épidémie.
Plus de 100 cas désormais confirmés dans la capitale chinoise qui n'avait pas vu la moindre contamination depuis 50 jours. Le foyer semble être parti d'un grand marché. Plusieurs quartiers sont reconfinés et les sites sportifs et culturels ont été fermés.
Et puis en Europe, ce 15 juin marque la réouverture. Ça y est, de nombreuses frontières à l'intérieur de l'Union.
Allemagne, Autriche, France, Belgique et d'autres encore. L'Espagne dans quelques jours. L'Italie, elle, avait devancé tout le monde. Le trafic aérien va donc progressivement reprendre et augmenter.
Et d'ailleurs, on est ce soir en Grèce, précisément, où il reste encore quelques restrictions. Hein, mais qui compte bien accueillir un maximum de touristes.
Jean-Sébastien Soldaini, vous terminez ce soir votre tour d'Europe du déconfinement à Athènes, la capitale qui a déjà retrouvé une quasi-vie normale.
Oui, parce qu'en jugé par l'énergie que dégage la circulation dans les rues de la ville, les Grecs vivent plutôt bien leur déconfinement. Pas beaucoup de masques dans les rues, ce n'est pas obligatoire. L'épidémie est maîtrisée ici depuis longtemps. Seuls les commerçants sont tenus de porter un masque. En revanche, ce ne sont pas encore les grands jours près du Parthénon. Les touristes ne sont pas encore là, pas les grands jours non plus. À l'aéroport, malgré la réouverture de certains vols, ce sont en majorité des Grecs qui rentrent au pays. Et puis quelques exceptions comme Katia, touriste allemande, large sourire aux lèvres.
About six weeks before,
ça fait six semaines que j'attends de venir. Je regarde chaque jour pour voir si la Grèce s'ouvre aux touristes. Et j'ai pris le premier vol, car depuis aujourd'hui, il n'y a pas de quarantaine, pas de test à subir. Je voulais vraiment être là.
Mais attention, pour certains touristes étrangers, les Français qui arrivent d'Île-de-France notamment, il faut encore suivre un parcours fléché à l'arrivée en Grèce. Test PCR et 7 jours de confinement à respecter si ce test est négatif. Le confinement passe à 14 jours si le test est positif. C'est aux frais du gouvernement grec. Dispositif encore contraignant donc, mais qui sera assoupli le 1er juillet.
Jean-Sébastien Soldaini en ligne d'Athènes pour Europe 1.
Que se passe-t-il à Dijon ? Plusieurs scènes de violence depuis vendredi maintenant, au point que des renforts sont envoyés en nombre dans la ville.
Oui, des policiers et des escadrons de gendarmes mobiles pour tenter de rétablir l'ordre après plusieurs expéditions punitives menées ce week-end par des dizaines d'individus issus de la communauté tchétchène, Guillaume Bié.
Oui, depuis vendredi soir, la ville a été le théâtre de multiples violences en représailles après l'agression la semaine dernière d'un adolescent de 16 ans d'origine tchétchène qui aurait été passé à tabac et menacé d'une arme à feu par des membres de la communauté maghrébine. En riposte, donc, des dizaines de Tchétchènes, dont certains ont fait plusieurs centaines de kilomètres, se sont regroupés à Dijon pour mener une série d'opérations punitives. Un bar à chicha saccagé, des coups de feu tirés, une voiture qui fonce sur eux avant de faire les tonneaux. Ce sont en résumé quelques-uns des épisodes spectaculaires qui se sont déroulés, effrayant les Dijonnais qui n'ont jamais assisté à de telles scènes, confirme le maire François Rebsamen.
Ils sont sidérés parce que plus d'une centaine de Tchétchènes, d'une cinquantaine de voitures ont envahi des quartiers de la ville pour pratiquer des règlements de compte, des vengeances, une sorte de loi du talion. C'est totalement inédit et j'ajoute immédiatement inacceptable.
Résultat, des renforts de sécurité en nombre sont déployés, CRS, gendarmes mobiles et des unités de BAC supplémentaires pour tenter de ramener le calme et éviter de nouvelles violences.
Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1.
Et on accueille dans ce 19h Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Demain dans le monde avec vous, nous filons au Liban où la crise sanitaire a déclenché une récession économique sans précédent et où les manifestations se succèdent. Une contestation qui ne faiblit pas depuis 4 jours dans tout le pays pour protester contre l'incurie du gouvernement.
Oui, avec des rassemblements qui touchent tous les communautés. Alors chrétiens, sunnites, chiites, russes, personne n'est épargné par la brutalité de l'effondrement économique. Alors certes, le pays allait déjà mal avant l'épidémie de Covid-19. Mais alors le confinement a fini de le mettre à genoux avec une monnaie en chute libre par rapport au dollar qui est la devise de référence sur laquelle sont indexés tous les prix au Liban. Or un dollar, ça s'est changé 1500 livres libanaises avant la crise sanitaire, ça coûte désormais 6000 livres et donc mécaniquement le pouvoir d'achat des Libanais a été divisé par 4 avant l'inflation.
On est fatigué. Il n'y a pas de travail, pas de salaire. Les cigarettes coûtaient 350 livres, elles en sont à 3000 maintenant. Où va-t-on ?
Voilà, c'est cette espèce d'inflation et cette prise à la gorge qui fait que tout le monde se retrouve dans la rue au coude à coude et la rage au ventre.
Et désormais, les manifestants n'hésitent plus à s'en prendre aux dirigeants du Hezbollah.
Et oui, ça c'est nouveau, mais c'est parce que le Hezbollah, enfin les Libanais savent parfaitement que le Premier ministre actuel n'est qu'un cachex de la milice chiite, c'est que c'est elle qui l'a mise au pouvoir et qu'elle est donc responsable de la situation. Et puis, en raison de son engagement militaire en Syrie, eh bien le Hezbollah n'a plus les mêmes moyens financiers qu'avant et joue donc moins bien son rôle d'aide sociale dans les quartiers pauvres. C'était flagrant pendant le confinement. Son réseau caritatif n'a pas pu, cette fois-ci, compenser la faiblesse des aides de l'État libanais.
Et en tout cas, cette crise qui s'aggrave de jour en jour, sur laquelle on viendra avec vous. Merci beaucoup pour cet éclairage, Didier François.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et après Demain dans le Monde, c'est Demain en France, dans une petite seconde, l'ascension du Mont Blanc, mieux encadrée cet été.
Et puis les salles de sport, à nouveau autorisées à ouvrir en Ile-de-France. Certaines n'ont pas traîné, elles ont ouvert dès ce matin.
19h11 sur Europe 1, votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et c'est l'heure de demain en France avec l'arrivée de l'été. Le grand défilé sur le Mont Blanc va reprendre.
Bonsoir Jean-Pierre Montanet.
Bonsoir Nathalie, bonsoir Sébastien.
Demain en France, un arrêté est censé siffler la fin de la foire sur le toit de l'Europe, c'est ça?
Oui, c'est la consécration pour Jean-Marc Payex, maire de Saint-Gervais. Son combat en solo pour ce texte remonte à 2003. Son ascension du Mont Blanc en 2010 lui donne de la crédibilité. Et sa saisine enfin en 2019 d'Emmanuel Macron ouvre la voie à cette législation. Il a fallu écrire 18 versions de cet arrêté pour obtenir le consensus avec élus locaux et professionnels de la montagne. Présenté au préfet cet après-midi, il va ouvrir une nouvelle ère sur le Mont Blanc. Interdiction de s'y poser en avion ou en hélico, à moins qu'il s'agisse d'une opération de sauvetage. Défendu de transporter autre chose que du matériel de montagne. Un piolet, oui. Un piano pour jouer du Bach au plus près des étoiles, non. Arrêtons de consommer le Mont Blanc, protégeons cette marque du business, s'époumonne le maire, dont l'ambition est de rendre cette expédition au vrai montagnard.
C'était arrivé, ouais. Le piano.
Ouais, c'est vrai, bien réel. C'était tellement le grand bazar que du coup, voilà, il faut absolument éradiquer ces dérives.
Oui, 20 000 alpinistes, des pros, mais aussi des clowns s'aventurent chaque année sur ces pentes, transformées parfois en gigantesques cirques où le grand n'importe quoi et la connerie, disons-le Nathalie, sont transcendés par l'altitude. Un Britannique a tenté d'installer un rameur au sommet. Ouais. D'autres se sont baignés dans un jacuzzi à 4807 mètres. Un Russe a voulu y accéder avec son gamin de 7 ans, un autre avec son chien. Une chanteuse y a organisé un concert commercial, tandis qu'un restaurateur y a dressé une table pour la promo de son restaurant. Deux Suisses ont même posé leur avion dans la neige, histoire de gagner du temps. Ce barnum va donc prendre fin avec ce texte, dont la signature est prévue d'ici 6 mois. Les gendarmes de haute montagne et la brigade blanche ont été bien briefés. L'amende va passer de 38 euros à 1500. De quoi vous dissuader de tenter une première dans l'air du temps, l'ascension en trottinette électrique.
Voilà, il faut mieux protéger le toit de l'Europe. Merci beaucoup Jean-Pierre Montanet. À demain.
Dans une seconde, Anissa nous dira qu'il ne va pas faire très beau demain. C'est donc l'occasion de retourner faire du sport en salle. Elles sont à nouveau autorisées à ouvrir depuis ce matin en Ile-de-France, puisque la région est passée au vert. Les salles de sport, prises un peu par surprise hier soir au moment de l'intervention d'Emmanuel Macron, n'ont pas toutes ouvertes tout de suite, mais certaines n'ont pas traîné. Reportage à Courbevoie de Cyril de la Morinerie.
Thomas et Gauthier sont en plein effort. Ces deux trentenaires soulèvent à tour de rôle une barre de musculation de plus de 60 kilos.
Dur, dur. Après 3 mois de pause, je crois que c'est... ça fait mal là.
Ça fait plaisir de revenir dans une salle.
On a fait quelques sessions en extérieur, mais bon là c'est mieux, on est mieux ici.
Un peu plus loin sur un tapis de course, Patrick essaie de reprendre son souffle. Cet habitant du quartier était l'un des premiers à franchir la porte de la salle ce matin.
Vu qu'on est passé en zone verte, donc j'ai dit bon, vu que j'habite à côté, je veux voir si la salle est ouverte. Et j'ai eu cette chance-là que ça soit ouvert. Et j'ai pris rendez-vous et je suis venu quoi.
C'est dur la reprise ?
Oh, très dur, mais ça fait du bien.
Afin d'ouvrir aujourd'hui, Stéphane le gérant a anticipé les annonces du président de la République. Il a mobilisé la semaine dernière sa famille pour réagencer la salle de sport.
On a bougé pas mal de matériel. Les tapis de course, on les a bien écartés, nos elliptiques aussi, les vélos, enfin voilà, pour que tout soit bien aux normes.
Pour l'instant, il n'y a pas foule, mais le téléphone n'a pas arrêté de sonner aujourd'hui. Au bout du fil, des adhérents souhaitant effectuer des réservations. Les cours collectifs reprendront en effet dès demain.
Un reportage
au
signé.
Boulot.
Cyril de la Morinerie.
En salle, j'entends.
En salle.
Merci Allez. Beaucoup, Sébastien Krebs. Merci à vous. Alors, du côté du ciel, Anissa, bottes de pluie de rigueur demain, mais pour une mi-juin, c'est quoi ce travail?
Ah oui, là, on n'y est pas, au niveau, effectivement, de la saisonnalité. Ce ne sont pas des températures ni un ciel de mi-juin que nous avons en ce moment. Alors, vous le disiez, bottes de pluie, parce que c'est par la façade ouest, demain, que le mauvais temps arrive. De la Normandie à la frontière espagnole, nous aurons beaucoup d'averses demain matin. Alors une journée un petit peu comme celle d'aujourd'hui, un rayon de soleil, une averse, un rayon de soleil. En Franche-Comté aussi et sur les reliefs alpins, demain matin, le ciel sera couvert avec des averses. Et puis, les nuages qui se trouvent sur la façade est et le mauvais temps vont gagner du terrain. Ils vont avancer au cœur de la France dans l'après-midi avec sur le centre, le massif central, les Vosges, le Jura, les Alpes, la frontière belge, les Pyrénées. Des averses accompagnées d'orages. Prudence demain. Nous allons avoir de nombreux orages sur l'ensemble du pays qui pourront être parfois assez violent. Les températures, alors elles sont stationnaires. Demain matin, on aura quasiment la même chose qu'aujourd'hui, 9 à 14 degrés. En revanche, l'après-midi, ça baisse assez franchement, notamment sur la façade ouest, avec 17 à 23, 17 seulement à La Roche-sur-Yon, c'est pas des températures de juin, ça, 18 à La Rochelle et à Pau, 20 à Belfort et à Toulouse, 22 à Paris. Il fait plus doux dans le sud avec 24 à Bastia et à Nice, 27 à Montpellier et 28 la maximale pour Nîmes.
Europe 1. Vous écoutez votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy et l'interview de demain dans un instant.
Et oui, parce que demain, ce sont les soignants qui seront dans la rue un peu partout en France pour demander plus d'argent pour l'hôpital public. Mon invité François Salacas, neurologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris, dans une seconde sur Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Nathalie Lévy. Et à 19h20, on se tourne vers demain. Demain, Nathalie, journée d'action et de mobilisation nationale des personnels soignants. Des manifestations sont prévues un peu partout en France. Avec vous, pour en parler, François Salacas, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Et membre du collectif Interhôpitaux. Bonsoir, François Salacas.
Bonsoir.
Bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Europe 1. Évidemment, on se souvient de vous. Vous aviez interpellé Emmanuel Macron le 27 février dernier à la Pitié-Salpêtrière, vidéo devenue virale. 10 semaines plus tard, le 13 mai, à mon micro, vous dénonciez l'absence d'action du gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes le 15 juin. Que diriez-vous à Emmanuel Macron s'il revenait vous voir ?
En fait, on lui a déjà dit le 14, après que je sois intervenu ici, on a réexpliqué à quel point il y avait urgence à créer un grand mouvement pour embaucher les personnels qui manquent à l'hôpital public. Et ce fameux choc d'attractivité, je pense que ça parle à Emmanuel Macron, un choc d'attractivité. Ce choc d'attractivité, on ne l'a pas pour l'instant. Il y a eu cette décision de faire cette concertation, négociation du Ségur qui a démarré, je vous rappelle, fin mai.
Voilà, il y a un peu plus de 15 jours maintenant.
Oui, avec un discours du Premier ministre qui n'avait pas grand-chose à voir avec les promesses du chef de l'État. Ça pose un vrai problème. Et donc, nous, ce qu'on attendait, c'est que le préalable implicite à ce Ségur, à savoir... Oui, on a compris. Oui, il faut augmenter effectivement les personnels paramédicaux, les moins bien payés. Oui, un moratoire sur la fermeture des lits. Parce que à l'heure où je parle, la capacité de la France à prendre en charge les patients, elle est toujours prévue à la baisse.
C'est-à-dire en pourcentage, pour que les Français comprennent, nos auditeurs, pour qu'ils comprennent. Aujourd'hui, l'activité à l'hôpital n'a pas repris de manière normale, à son rythme normal.
Pas du tout. On a l'impression que le plus dur est fait, que l'hôpital a tenu, qu'on a tenu dans la tempête et que donc finalement maintenant, il suffit de panser les plaies et que ça va repartir doucement. La vérité, c'est que la capacité à embaucher n'a pas du tout réaugmenté par rapport à avant la crise du Covid. Et surtout, je veux signaler que dans bon nombre d'hôpitaux, c'est la moitié de la capacité de lit qui est ouverte.
La moitié de la capacité de lit, littéralement,
moitié. Oui, absolument.
Dans plusieurs régions de France.
Bien sûr. Donc ça veut dire que les régions qui ont été les plus impactées, qui ont redéployé leur personnel pour le Covid, devraient désormais réouvrir leurs lits pour les pathologies habituelles. Et ça n'existe pas.
Mais je ne comprends pas. Il s'est passé quand même des choses, François Salacas, notamment les primes allant de 1 000 à 1 500 euros, plus la majoration des heures supplémentaires réalisées durant l'épidémie. Tout ça, ça sera payé avant septembre, on le sait depuis hier avec le décret. Il y a des choses significatives qui ont été faites en termes de sonnant et trébuchant. C'était le préalable aussi, ça. Est-ce que ce premier chapitre, oui ou non, a été honoré ?
Non, parce que je pense qu'on n'aura aucune difficulté à faire comprendre à nos concitoyens, comme on dit, que... En fait, des primes, c'est ponctuel. C'est pas ça qui revalorise le métier. À partir du moment où on admet que le métier de soignant, c'est un métier qui doit être valorisé en termes financiers, il faut le faire.
Alors, à hauteur de combien ? On parle toujours des 300 euros nets par mois. C'est cette revalorisation minimum. En tout cas, c'est celle qui ferait sens pour vous ?
Bien sûr. Bon, c'est les chiffres qu'on donne, parce qu'il faut bien
donner des chiffres.
Oui, mais enfin, il faut comprendre qu'en dessous de ce chiffre, il y aurait de sérieux problèmes. Et là, je suis extrêmement inquiet pour l'évolution même de ce qui est une lutte quand même et qui pourrait devenir un vrai conflit.
Donc là, depuis le début des discussions autour de la table, je crois qu'il y a eu deux réunions plénières entre autres, donc deux semaines et deux réunions plénières plus tard au Ségur de la Santé. Est-ce que les premiers résultats sont concluants ?
Mais il n'y a pas de résultats pour l'instant. C'est-à-dire qu'on attendait...
Il n'y a pas des points d'étape ?
Non, justement, le point d'étape a été décalé d'une semaine. Donc, il aura lieu jeudi. Il faut comprendre que ce point d'étape, c'est essentiellement pour les piliers, c'est-à-dire des discussions sur le long terme de comment on va organiser l'hôpital. Par contre, le fameux préalable sur les salaires, à l'heure où je parle, on n'a rien. Et ce n'est pas comme ça qu'on mène une concertation dans la confiance. Mmh. Comment expliquer que ça n'ait pas eu lieu d'emblée ?
Mais il a dit mi-juillet, le président de la République, pour les résultats. Est-ce qu'il ne faut pas se dire un peu de patience, il y aura des choses ?
Mais il me semble qu'on a été extrêmement patients.
C'est pour ça que demain, vous descendez dans la rue, un peu partout en France, journée d'action nationale pour l'hôpital. Vous, précisément, vous descendez dans la rue demain ?
Oui, bien sûr, mais comme beaucoup,
comme beaucoup de vos confrères, bien sûr. Elle veut dire quoi, cette journée ?
Elle veut dire qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de parler. Il faut des actes.
Arrêter de faire de la com ?
Oui, il faut des actes immédiatement. Il faut arrêter cette héroïsation qui a certains, d'un certain point de vue, est indécente. Et surtout, il faut que les usagers viennent nous prêter main forte. Ils l'ont fait de façon extrêmement spontanée au moment où ils applaudissaient à 20h. Il faut qu'ils reprennent demain leurs applaudissements un peu avant 20h, peut-être de façon plus soutenue, pendant au moins un quart d'heure, et qu'ils nous rejoignent également dans la rue, parce qu'on oublie de dire quelque chose. On a l'impression qu'on est en train de défendre une profession. On est en train de défendre tout simplement le fait qu'on puisse continuer à soigner, les patients en France.
Donc là, aujourd'hui, si je vous entends bien, vous craignez, vous, mais évidemment, tous ceux qui vont descendre dans la rue demain, que ce Ségur se résume à une opération de communication, ça va dans la même lignée que, évidemment, ces soignants qui seront le 14 juillet médaillés, félicités, cette journée du 14 juillet dédiée aux soignants. Vous avez l'impression qu'on vous endort, si je puis me permettre l'expression, avec cela ?
Oui, écoutez, ça ressemble à la cerise sur le gâteau. Mais la cerise sur le gâteau, c'est quand il y a un gâteau. Donc commençons par des choses qui vont vraiment toucher les gens et qui vont leur faire comprendre que tout ça, ce n'est pas des paroles et que c'est vrai que la santé, c'est notre bien commun et que c'est vrai qu'on est prêt à dépenser de l'argent pour la santé. Alors après, le côté « cet argent sera mal utilisé », ça, écoutez, on a le temps de réorganiser l'hôpital public. Il faut juste ne pas oublier quelque chose, c'est qu'il y a aussi des craintes que l'hôpital public soit en danger et qu'on se dirige petit à petit vers qu'on se dirige vraiment vers une privatisation rampante de la santé en France.
Mais François, c'est la casse quand même, parce que vos revendications, c'est quoi ? C'est un plan de recrutement des personnels, c'est l'augmentation des budgets, c'est l'augmentation des salaires, c'est l'arrêt de fermeture d'établissements, et j'en passe, bien sûr, avec des priorités dans tout cela. Mais quand même, la France, elle compte les hôpitaux classés parmi les meilleurs du monde. Le CHU de Pellegrin à Bordeaux, il a été classé au 32e au rang mondial par le magazine américain Newsweek. Il y a l'excellence française. Il y a des lits aussi dans certains hôpitaux. On a vu, puisque certains n'ont pas été sollicités, même pendant la crise du Covid. Donc, il y a quand même des éléments solides et fiables.
Oui, mais c'est un édifice qui croule. Je crois que j'avais utilisé la métaphore de Notre-Dame et ce n'est pas un hasard. C'est pour deux raisons qui sont très différentes. L'une, c'est que quand il a fallu de l'argent pour Notre-Dame, tout le monde s'est précipité. Et l'autre, c'est que Notre-Dame, on pense que ça a toujours existé et que ça existera toujours. Et que l'hôpital public tel qu'on le veut et tel que les Français veulent le maintenir, on a l'impression qu'il sera éternel. Eh bien non, il ne sera pas éternel si on ne fait pas immédiatement ce qu'il
faut. Alors, je vais vous poser la question très simplement. On a eu un plan pour l'aéronautique, on a eu un plan pour le tourisme, on a eu un plan de sauvegarde pour l'automobile. Est-ce que c'est un plan de sauvegarde pour l'hôpital public que vous appelez aujourd'hui, ce soir, sur Europe 1 ?
Mais c'est quelque chose qu'on appelle de nos voeux depuis plus d'un an. Je rappelle, avant la crise du Covid, nous n'avons pas été du tout entendus. Et effectivement, vous faites bien de remarquer que le budget nécessaire pour ce plan de sauvetage de l'hôpital public, à l'heure où je parle, aucun chiffre n'a été donné par le gouvernement. C'est quand même, ça a quand même quelque chose de très choquant quand on voit les chiffres pour ramener la confiance sur l'industrie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à l'hôpital public, quel que soit le financement, on se débrouillera toujours pour soigner les patients. Eh bien écoutez, on ne pourra pas dire que nous n'avons pas lancé les alertes nécessaires.
Pas de chiffrage et pas de calendrier non plus.
Non plus.
Voilà. Merci beaucoup François Salacas d'être venu ce soir nous le dire sur Europe 1 et demain donc ces syndicats hospitaliers en journée d'action nationale pour l'hôpital. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Europe 1.
À suivre Nathalie Lévy. Dans un instant, restez avec nous sur Europe 1. La parole aux restaurateurs, chefs d'entreprise, voyagistes. Ça y est, ils reprennent évidemment du poil de la bête. Comment ont-ils accueilli les annonces d'Emmanuel Macron hier soir ? Et la suite, elle se présente comment ? Vos appels au 3921 et hashtag Europe 1. Europe 1.
19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
Sébastien Krebs pour votre rappel des titres.
Marche arrière toute sur l'hydroxychloroquine. Les États-Unis suspendent l'autorisation accordée au médicament, estimant qu'il n'est plus raisonnable de croire qu'il est efficace. En France, le casse-tête de l'école obligatoire lundi prochain. Plusieurs directeurs d'école estiment qu'ils ne pourront pas accueillir tous les élèves malgré les mesures sanitaires allégées. Plus besoin d'attestation pour prendre les transports en Ile-de-France aux heures de pointe. En revanche, attention, le port du masque reste obligatoire dans les transports publics. À retenir aussi ce soir, la ville de Paris mise en cause pour défaut de vigilance. L'explosion de la rue de Trévise qui avait fait 4 morts en janvier 2019 aurait pu être évitée, conclut le rapport d'expertise. De la prison ferme pour 6 proches d'Edouard Balladur, dont Nicolas Bazire et Renaud Denedieu de Vabre, condamnés lourdement dans l'affaire Karachi pour avoir touché des commissions occultes et soupçonnés d'avoir financé la campagne de 95. Enfin, la crainte d'un rebond de l'épidémie en Chine, plus de 100 cas confirmés à Pékin, reconfinement de certains quartiers et fermeture de lieux culturels et sportifs.
Merci Sébastien Krebs, retour de l'info avec vous dès 18h demain. Anissa, gris, humide,
c'est ça.
Pluie, déprime.
Normalement, à cette époque, on prépare les parasols. Là, c'est les parapluies hein, qu'il faut sortir et surtout bien l'avoir avec vous demain. Alors, le mauvais temps, il arrive d'abord par la façade atlantique demain. Il va pleuvoir de la Normandie jusqu'à la frontière espagnole. C'est assez simple. Alors, pas toute la journée. Ce sont des averses par intermittence, comme ça, qui viennent ponctuer toute la journée. Et puis, au fil des heures, ces averses, elles s'avancent. Elles rentrent à l'intérieur de la France pour toucher le centre. Le massif central, la Bourgogne, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes. Il n'y a finalement que le bord de Méditerranée qui sera protégé demain après-midi. Attention aux orages, les orages violents qui vont éclater sur une grande partie du pays. Les températures 9 à 14 degrés demain matin, c'est quasi comme aujourd'hui. Et puis ça baisse demain après-midi sur la façade atlantique avec seulement 17 à 23 degrés. Nous aurons 17 degrés à La Roche-sur-Yon en Vendée, 20 à Belfort et Toulouse, 22 à Paris. Il fait bien meilleur dans le sud avec 24 à Nice, 25 à Lyon et 27 à Montpellier.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Au lendemain de l'allocution du président de la République, la parole jusqu'à 20h aux professionnels, restaurateurs, voyagistes, chefs d'entreprise. Quel est leur sentiment ce soir? Qu'attendent-ils pour la suite? Avec vous en studio, Nathalie Lévy, Thierry Grégoire, président de l'UMI, branche saisonnier, et Alain Griset, président de l'UDEP, l'Union des entreprises de proximité, qui représente les artisans et commerçants et professionnels libéraux.
Bonsoir messieurs, bienvenue dans ce studio.
Bonsoir.
Et l'UMI, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Hein. Je vais me tourner vers vous, Thierry Grégoire, parce que vous avez le sourire ou pas depuis ce matin?
Bon, on l'a de plus en plus, en tout cas pour les Parisiens et les Franciliens qui vont pouvoir ouvrir à 100% leur capacité d'accueil. Donc, ils l'ont même. Bon, ils ont été prévenus hier soir.
Ah oui, c'était un peu
voilà,
court.
Ils vont prendre du temps. Voilà, ils vont réouvrir dans le courant de la semaine. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, bien sûr. Voilà, il faut dire les choses quand c'est positif, bien évidemment.
Voilà, évidemment. Alain Griset, du côté des entreprises, des artisans, des commerçants, des professionnels en libéral. Ça y est, on peut considérer que le déconfinement global est avéré. L'ouverture des frontières aussi dans l'espace Schengen désormais, juillet pour l'international. Il y a une reprise, véritablement, vous la sentez, les commerçants vous le disent?
C'est variable suivant les secteurs d'activité. On voit bien qu'il y a encore des secteurs dans lesquels la reprise est là, mais elle est entre guillemets molle. Et donc nous, ce qu'on espère, c'est que le déconfinement maintenant confirmé va permettre à l'ensemble des Français de repartir vers de la consommation. Et puis on a des secteurs, par exemple, comme dans le bâtiment, où on attend les élections municipales, pour dire que les commandes puissent repartir, les marchés puissent repartir. Puis le secteur qui est aujourd'hui le plus interrogatif, c'est toute la sous-traitance industrielle. Mmh. Ceux qui travaillent pour Airbus, pour Renault, sur lequel là on voit bien qu'il y a encore quelques hésitations.
Évidemment, on a entendu hein, quand même nombre de restaurateurs, Thierry Grégoire, je me retourne vers vous, parce que nombre de restaurateurs, et sans doute le plus médiatique de cela, Etchebest, qui hier a quand même interpellé après coup le président de la République pour lui dire c'est bien joli, mais ça suffit pas, il y a quand même plus de 30% des restaurants qui feront faillite à la rentrée au regard des 3 mois sous cloche.
Vous savez, on a vécu quand même une période extrêmement compliquée de confinement. La date d'ouverture, c'est pas parce qu'il y a une date d'ouverture qui est fixée au 2 juin que tout le monde va réouvrir. D'abord parce qu'on parle effectivement de tourisme, mais il n'y a pas beaucoup d'établissements tels cafés, restaurants qui ne vivent pas du tourisme, qui vivent d'autres types de filières, je pense d'événements culturels, de festivals, mais aussi d'autres filières aéronautiques, industrielles. Donc, redémarreront pas avant septembre. Tout n'a pas été fait, c'est clair, mais parce qu'il reste encore beaucoup à faire. C'est pas parce que effectivement on réouvre que tout repart. Non, il faut encore trouver, travailler avec le gouvernement, notamment de tel temps politique pour travailler des solutions avec les bailleurs, de trouver des solutions avec les assureurs qui aujourd'hui sont pas au rendez-vous, sont vraiment décroche par rapport à la réalité. Donc il faut, tout ça, c'est de la négociation. Après, vous savez, les négociations, il y a un temps pour négocier et il y a un temps pour passer à autre chose. Pour l'instant, on n'est pas dedans. Mmh. Et puis, on a nos clients qui, pour l'instant, on verra s'ils reviennent. Et nous, on les invite à revenir. Et ça, c'est le choc aussi psychologique pour lequel on a besoin qu'ils reviennent consommer chez
nous. Bien sûr, bien sûr. Alain Grisé et puis un auditeur dans un instant.
Oui, après, il y a une question de rentabilité des affaires. S'il y a pas,
si on ouvre, mais c'est pour avoir un client toutes les 5 heures.
Oui, et puis au-delà de ça, il y a les surcoûts.
Bien sûr.
Liés aux mesures sanitaires. Et donc, ce que l'on demande à l'U2P, c'est qu'il puisse y avoir très vite une diminution de ces contraintes administratives, qui naturellement sont très importantes sur le temps passé, non productif, et sur la perte de bénéfices.
Alors, est-ce que les prix vont augmenter au regard des difficultés qu'ont connues les restaurateurs, notamment, mais pas seulement, on va y revenir dans un petit instant, avec nos auditeurs et ceux qui nous contactent, notamment des restaurateurs parisiens. À tout de suite, c'est sur Europe 1 et c'est jusqu'à 20h.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. Ce soir, vous donnez la parole aux professionnels avec vos invités Nathalie Lévy. On s'adresse ce soir aux restaurateurs, aux voyagistes, aux chefs d'entreprise. Qu'attendent-ils pour demain? Vous pouvez également réagir au 39-21.
Et on est en ligne avec Thomas. Bonsoir Thomas, vous êtes propriétaire d'un restaurant rue des Pyrénées à Paris, dans le 20e. Chonette, c'est son nom. Bonsoir, bienvenue à vous. Alors ça y est, c'est ouvert depuis ce matin chez vous?
Ah bah non, c'est pas si simple que ça.
Ah ouais, c'est ça le problème, hein, c'est qu'il y a une mise en place, etc. Racontez-nous.
Il faut bien tout simplement qu'on recontacte nos fournisseurs, qu'ils nous livrent, qu'on fasse de la mise en place, des nettoyages aussi, des pompes à bière et tout ça. Rappeler aussi le staff, savoir si il faut qu'il soit dispo tout de suite. Voilà, donc c'est beaucoup de choses où je pense que c'est un petit peu compliqué de faire ça du jour au lendemain, du dimanche soir 20h au lundi matin. Voilà, donc c'est vrai que, bon, moi je trouvais ça un petit peu trivial, un peu empressé,
de nature quand même à vous rassurer, à vous dire ça y est, on est sur le pied de guerre, on y retourne et ça va le faire.
Bien évidemment. Ouais. on est tous très motivés, ça c'est évident.
Bon.
Voilà, par contre, c'est vrai que cette date du 22 juin qu'on attendait. Ouais. Puisqu'on on a attendu successivement des dates, on a établi là-dessus.
Ouais,
et du coup, c'est vrai qu'on se sent un petit peu pressé, stressé de rater quelque chose.
Un peu court-circuité. Merci beaucoup et bonne reprise. Alors du coup, on a bien compris qu'il fallait se remonter les manches. Merci à vous. Pierre Sièvre est également avec nous, gérant du restaurant Le Garde-Temps dans le 9e arrondissement. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue. Vous avez pu repartir au combat depuis ce matin ?
Et là, ce non, parce qu'il faut se mettre en place. Merci. Donc la mise en place, il faut passer les commandes, il faut appeler le personnel pour voir qui revient, qui revient pas. Mmh. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de savoir qu'on va reprendre, mais on n'a pas pu ouvrir au bout. Donc c'est demain.
C'est demain. Demain mardi. Donc le temps de fignoler, de terminer effectivement et de rappeler les équipes. Merci beaucoup et bonne reprise à vous. Évidemment, c'est vrai que le président de la République nous a pris de court, Thierry Grégoire, hier soir, ce qu'on disait tout à l'heure pour l'Île-de-France, hein, parce qu'effectivement, pour le reste du pays, en tout cas dans le vert, dans les zones vertes, on pouvait recevoir les clients à l'intérieur aussi. C'est à la fois, j'allais dire, un cadeau et à la fois, c'est un peu violent.
C'est violent dans le sens où ça mettra un petit peu de temps. Effectivement, on attendait tous la phase 3. La phase 3 sera annoncée quand même le dimanche 21, a priori, pour le 22. Mais pour les restaurateurs franciliens et parisiens, ça n'avait plus de sens du tout. Donc, on supposait que ça allait arriver le dimanche soir. Maintenant, c'est vrai, comme le dit mon collègue, il y a un petit temps quand même de redémarrage qui va se faire dans le courant de la semaine. Et vous voyez bien que, de toute façon, même avec les capacités d'accueil à 100% sur Paris, mais je parle de Paris, pour l'instant, vous n'avez toujours pas de touristes. Ouais. Et donc, l'activité va être longue, la reprise va être longue. Et certains restaurateurs à Paris n'ouvriront pas avant le mois de septembre. Donc, il faut aussi. C'est un long processus de déconfinement. Économiquement, il faut que ce soit rentable. Socialement, c'est difficile aussi. Parce que moi, j'ai toujours dit que l'activité partielle, c'est une drogue dure. Et donc, il va falloir petit à petit, progressivement, que les salariés reprennent le travail. Ils ont été protégés, mais protégent aussi l'entreprise. Et pour le coup, la fragilité de l'entreprise est toujours là. Ouais. Parce qu'économiquement, si c'est pas atteint, eh bien, on aura effectivement... il faut absolument qu'on étende les processus d'activité partielle, de protection des entreprises. Ce ne sera pas jusqu'à septembre, ce sera beaucoup plus loin que ça, au moins jusqu'au 31 mars 2021.
Alain Grisé, vous, il y a eu aussi l'aspect protection, j'allais dire, vous l'aviez lancé, hein, ce numéro gratuit d'écoute sur sur le soutien psychologique aussi aux petits patrons. Mmh. Si on regarde les entreprises du tourisme, parce que c'est bien sûr aussi celles qui nous intéressent particulièrement à la veille des vacances d'été, les professionnels dans ce secteur-là, est-ce qu'ils sentent que ça reparte? Est-ce qu'ils sentent une petite vibration? Et comment sont-ils? Que vous disent-ils?
Tout d'abord, on voit bien que les Français ont besoin de ces professionnels. C'est vraiment un peu spécifique à la France. Hein. La France sans les restaurateurs, sans le tourisme, ce n'est plus la France. Et c'est d'abord très positif pour ces professionnels. Hein. C'est toujours quand les gens sont absents qu'on a peut-être envie d'eux, mais particulièrement, on voit bien que c'est important. Deuxième chose, bon, naturellement qu'il y a une reprise, mais la reprise, on sait très bien que la saison, je ne dis pas qu'elle est morte, mais la saison va être compliquée. Tous les touristes ne vont pas revenir automatiquement très vite. Et donc, naturellement, nous, à l'E2P, ce qu'on demande, c'est qu'il puisse y avoir un accompagnement qui soit dégressif, mais un accompagnement suffisamment durable pour que les entreprises tiennent le coup. Mmh. En gros, ça serait un peu dommage d'avoir fait beaucoup d'efforts entre mars et juin, et puis, au bout du compte, arriver à septembre, de devoir avoir les mêmes résultats qu'on aurait eu en mars sans effort. Donc là, c'est bien ce qui a été fait, il faut le dire, mais il faut continuer d'accompagner les entreprises pour pas qu'il y ait de casse.
Alors justement, ces entreprises, ces agences notamment de voyage, on en parle avec vous, Éric Gautret, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, vous êtes directeur de l'agence Détour Voyage à Paris dans le 6e arrondissement. Alors ça y est, l'ouverture des frontières européennes, on y est, vous l'attendiez. Est-ce que vous êtes optimiste? Pensez que les Français vont se lancer et à contrario.
On est optimiste, mais réaliste. En effet, on attendait l'ouverture des frontières, mais en fait, bon, on était à peu près certain qu'au 1er juillet, grosso modo, on pourrait voyager à l'intérieur de l'espace de Schengen. Ouais. Maintenant, c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est qu'un frein qui se lève pour faire voyager les gens en Europe. Les gens ont encore des freins, notamment psychologiques. Ils ont peur de tomber sur des nouveaux clusters au moment où ils partent en vacances, de se retrouver
en
quarantaine. En
même temps, le ministre du Tourisme qu'on avait tout à l'heure nous invite à rester en France.
Et il y a encore beaucoup d'invitations à rester en France.
C'est ça.
Alors, les gens qui avaient réservé avant le confinement, parce qu'il y a quand même des gens qui ont réservé en décembre, janvier, février pour leurs vacances d'été en Europe, on a peu d'annulations. Mais ça reste, de la part des gens, mais ça reste compliqué parce que même la problématique importante qu'on a aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va pouvoir, nous, en tant que professionnels du tourisme, respecter le contrat qu'on a signé avec le client. Je m'explique. Sur un hôtel balnéaire, par exemple, en Crète, un gros hôtel, en all inclusive, en formule tout inclus, qui avait 3 piscines, 4 restaurants, on n'est pas sûr à ce jour, et l'hôtelier, personne ne peut nous garantir, ni les autorités grecques, ni l'hôtelier, que les restaurants sont tous ouverts, que les piscines sont ouvertes. Alors vous imaginez le client qui part avec ses deux jeunes enfants, la piscine est fermée, il n'y a qu'un seul restaurant et c'est à la carte et ce n'est pas buffet. Il peut nous attaquer aussi pour manquement, donc ça c'est un risque. Et les gens nous posent beaucoup de questions auxquelles on ne peut pas toujours répondre, pas les réponses.
Bien sûr,
on ne peut pas leur promettre des choses qu'on ne
peut pas tenir. Merci beaucoup. Ça fait encore beaucoup de points d'interrogation. Hein. Donc, même si les choses tendent à se déconfiner clairement, ça fait encore beaucoup de points d'interrogation. On va y revenir avec vous deux, messieurs, dans ce studio sur Europe 1. Thierry Grégoire, Alain Griset, évidemment, le tourisme, l'ouverture des restaurants, y compris en Île-de-France, mais avec encore beaucoup d'inconnus dans l'équation. À tout de suite sur Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. Ce soir, vous donnez la parole aux professionnels, Nathalie Lévy. Les restaurateurs, les voyagistes, les chefs d'entreprise, après les annonces d'Emmanuel Macron hier, qu'attendent-ils? Vous pouvez continuer à réagir sur Twitter, hashtag Europe 1.
Et oui, parce que bien sûr, les plans d'aide, ils sont là, ils existent. Maintenant, c'est sur la durée, évidemment, que cela va se mesurer. On en parle avec vous, Thierry Grégoire et Alain Griset. Alain Griset, c'est vrai qu'on zoomait ces jours-ci sur le chômage des jeunes et sur l'entrée sur le marché des 700 000 jeunes là, à la rentrée qui, évidemment, sont très inquiets parce qu'on l'a dit, beaucoup dit, les stages sont annulés, les jobs d'été, ça va être très compliqué. On peut en parler d'ailleurs avec vous deux. Les jeunes, qu'est-ce qu'on fait demain dans vos secteurs, dans votre secteur?
Tout d'abord, très clairement, on ne peut pas sacrifier une génération. Et les jeunes, c'est les salariés de demain, c'est les entrepreneurs de demain. Et donc, il faut tout faire pour trouver des solutions adaptées à chacun. Par exemple, sur l'apprentissage, UDP, on a obtenu satisfaction pour que pour les chefs d'entreprise, pour l'apprentissage, que ça soit mineur ou majeur, il y a un accompagnement qui permet pendant un an, en gros, pour que l'entreprise n'ait pas de coûts, tout en permettant à l'apprenti d'avoir son salaire. Mais ce qu'il faut aussi, c'est que l'apprenti a eu son diplôme, on puisse permettre à l'entreprise de le garder. Ça, c'est un élément important. Peut-être de faire une année de plus, un diplôme en plus. L'idée, c'est de ne pas remettre des jeunes en plus dans le marché du travail.
On va quand même préciser quelques chiffres, parce que c'est toujours bon de rappeler des chiffres. C'est 1 milliard d'euros hein, pour préserver les apprentis. C'est la première mesure concrète du cycle de négociation qui a été lancé par le président de la République et les organisations syndicales patronales. C'est pas rien. On a des subventions pour l'embauche d'apprentis qui sont élargies. Chez vous aussi, les apprentis dans le secteur évidemment du tourisme, de la restauration, les apprentis, mais aussi les étudiants avec les jobs d'été, les saisonniers. Comment vous leur répondez aux saisonniers ?
On leur répond d'abord sur 750 000 salariés, vous en avez 400 000 qui sont saisonniers, dont 300 000 l'été. Donc certains devaient reprendre leur contrat de travail au 1er avril. Ceux-là, ils étaient en maison. Ceux-là sont au chômage partiel. Ouais. Ceux qui auraient dû reprendre notamment le gros des troupes à compter du fin juin, début juillet, une partie ne pourra pas reprendre de contrat de travail. Donc on a des dispositifs d'action sociale qui accompagnent, notamment la portabilité des droits pour les salariés saisonniers. Mais il faudra aussi qu'on étende les droits au chômage. Il faudra aussi qu'on accompagne l'activité partielle de façon plus longue que le 30 septembre, c'est-à-dire au moins jusqu'au 31 mars 2021, et pour protéger l'emploi, parce que c'est essentiel. On considère, nous, à l'UMI, que nous aurons un saisonnier sur deux qui ne pourra pas reprendre de contrat de travail. Donc on va, ces salariés-là, il faut bien qu'ils viennent chez nous depuis des années, il faut bien qu'on continue à les protéger. Et ça, c'est fondamental. Donc les dispositifs, on va les étendre. On a mis en place, au niveau de l'action sociale de la branche tel café-restaurant, tout un tas d'accompagnements, d'aides, de mesures d'aide. Mais ce ne sera pas suffisant si l'État ne prend pas aussi toute sa part et aussi qu'on se réinvente dans les dispositifs d'assurance chômage. Où je pense que là, ce que j'entends ne me rassure pas. Je pense qu'il faut justement, nous, collège patronal comme collège salarié, être extrêmement inventifs pour accompagner le plus longtemps possible dans la solidarité nationale tous ces salariés qui sont des victimes collatérales de ce droit de non exploité de nos entreprises. Oui. Donc c'est protéger l'entreprise, le chef d'entreprise et le salarié qui est indissociable pour moi de l'entreprise.
Oui, alors protéger, accompagner Alain Griset accompagner, faciliter, simplifier aussi tout l'aspect procédure et administratif parce que avec effectivement toutes les mesures qui sont annoncées les différents strates deviennent extrêmement compliqués, notamment pour les artisans, entre autres, pour les commerçants, tout type de professionnels.
Sans aucun doute, la mesure des 4 mètres carrés doit sauter. Très clairement, d'ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale l'a dit. Pas encore, mais j'espère que ça va y être.
C'est pour ça que je précise, pour ainsi dire.
J'espère que ça va y être, parce que c'est important. Et on voit bien que, en tout cas, nous, ce qu'on demande, c'est qu'une simplification, tout en garantissant la sécurité sanitaire, mais il faut qu'on simplifie les procédures. Il faut qu'on diminue les coûts. Parce que sinon, à un moment donné, ça ne marche pas. Et puis, aussi, pour protéger notre jeunesse, il faut qu'on arrête le travail détaché. Il ne faut pas qu'on fasse venir.
Alors, c'est un autre dossier, là. Oui, mais vous attaquez. On n'est pas au bout. Mais effectivement, ça, c'est toujours bien de rappeler.
Il faut qu'on ait une cohérence.
Bien sûr.
On ne peut pas faire venir des Polonais et puis dire aux Français. Donc là, il y a un travail global, collectif, pour dire la priorité, c'est de permettre, en particulier aux jeunes, de trouver de l'emploi et de ne pas se retrouver sur le marché du travail comme ça, sans rien. Il faut trouver une solution pour chacun.
Bien sûr. Alors, je lis juste un message de Patrick qui nous appelait tout à l'heure. Je suis commerçant dans le 3e arrondissement de Paris et l'activité n'est pas présente. J'ai entre 50 et 70% en moins de chiffre d'affaires. La semaine dernière, par exemple, j'ai fait moins 80% de chiffre d'affaires comparé à cette même semaine de l'année dernière. Si je reviens vers vous, 30 secondes, Alain Griset, les soldes, elles ont été décalées justement pour favoriser un petit peu, ou en tout cas pour sortir de l'ornière les commerçants dans l'habillement. Ça, c'est une... C'est de nature quand même à donner un peu d'air.
J'espère, naturellement, mais c'est pour ça qu'on a obtenu aussi le maintien du fonds de solidarité qui permet de continuer d'accompagner ceux justement qui ont perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Et les soldes, ça sera un des premiers déclics qui va montrer si le consommateur est prêt à revenir consommer. Ouais. C'est extrêmement important.
Thierry Grégoire, vous espérez un retour à la normale absolue en septembre ?
Non.
Bien sûr que vous n'y croyez même pas
non,
pour
non,
septembre.
Non, je pense que d'abord, parce qu'on est très dépendant d'activités croisées, je pense à l'aérien, je pense à d'autres industries pour lesquelles tout ce qui est événementiel aujourd'hui est à l'arrêt et ce n'est pas prêt de reprendre. On a l'interdiction de ne pas se rassembler en deçà de 5000 jusqu'à la fin du mois d'août. Non, je pense que par contre, il faut être optimiste. Il faut que les Français voyagent en France, ils restent en France, consomment dans nos hôtels, cafés, restaurants. D'abord parce que par solidarité et parce que 12 millions de Français ont pu bénéficier de l'activité partielle et c'est grâce à tous les Français. Mmh. Et donc, il faut qu'ils restent en France. Je pense qu'il ne faut pas avoir... On fait des vacances bleu, blanc, rouge. Et s'il vous plaît, restez en France. Et il faut rester optimiste parce qu'on est aussi des marchands de bonheur et de rapports sociaux.
Oh que oui, merci beaucoup. Merci à tous les deux, Thierry Grégoire, Alain Griset. Merci d'être venu ce soir dans le studio d'Europe 1. Nous, on se retrouve demain 18h-20h. D'abord, c'est musique, là, dans la foulée. Émilie Mazoyer, avec ce soir en invité le groupe qui participe à l'album Hommage à Guy Béard. Le groupe Brigitte. Et puis le live, Ma Jeunesse. Enfin, ma jeunesse. Mais non, pas ma jeunesse. Votre jeunesse à vous, Thierry Desgiral, notre rédacteur en chef. Les Pet Shop Boys en 2009. Moi, j'étais pas née. De la bonne pop en anglaise comme il aime. Ah, oui, il danse très bien. Allez, demain, ici même, 18h-20h pour votre grand journal du soir. Pour écouter, bien sûr, avec le sourire et ensemble, Le Monde Changé. Merci à tous. C'était Nathalie Lévy sur Europe 1. Europe 1.